enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, on va parler de l'église locale. L'église locale, j'avoue que l'église locale, c'est devenu ma passion. Mais avant, c'était pas du tout ma passion, je dois vous l'avouer. Parce que nous passons des temps, des fois, dans les églises où nous souffrons tellement que parfois nous nous disons, est-ce que vraiment faut-il qu'on aille encore à l'église? Vous savez, dans le monde entier, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église et ne savent même pas pourquoi, finalement, ils vont dans une église locale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune révélation. Il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui passent 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie et franchement, le dimanche matin, quand ils doivent prêcher, ils ont envie d'y aller en marche arrière. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont complètement épuisés, d'autres qui sont dans une défaite gigantesque. Et ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on va parler de l'église locale, on va voir. Et c'est un séminaire. Un séminaire, ce n'est pas simplement pour venir une fois, venir une seule fois et voir qu'est-ce qui se passe. Mais un séminaire, c'est quelque chose de suivi. Aujourd'hui, je vais débroussailler ce qu'est l'église locale. Je vais vous montrer un certain nombre de principes scripturaires, des lois spirituelles. Et demain, nous attaquerons les 5 phases par lesquelles, normalement, une église locale devrait passer. Et on va s'apercevoir que la plupart des églises locales ne dépassent pas la première phase. Ce qui fait que finalement, on échoue. Et l'échec n'est pas épanouissant. Hein? Amen. Être dans l'échec, ce n'est pas quelque chose d'épanouissant. Parce que quand vous avez votre pasteur qui est un déprimé professionnel, ça fait du mal. Hein? Amen. Et on ne veut pas de ça. On veut des gens épanouis. Normalement, nos leaders devraient être épanouis. Nos pasteurs devraient être des gens épanouis. Ça devrait être des gens avec de grandes visions. Ça devrait être des gens qui réussissent leur ministère. Et c'est normal. Parce que Dieu nous appelle au succès. Dieu ne nous appelle pas à la défaite. Donc c'est extrêmement important. Et il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a des clés de la réussite. Regardons ensemble dans Josué chapitre 1. Nous allons voir un petit peu ce que Dieu a dit à Josué. Je sais que vous êtes des gens assez formés. Donc je prendrai quelques écritures ce soir. Je ne passerai pas mon temps à décortiquer les versets comme j'aime le faire, mais je passerai un peu plus de temps parce que je veux vous donner énormément de choses. Dans ce séminaire, vous allez recevoir. Malheureusement, je ne pourrai pas détailler trop de choses. Je vais rentrer dans certains points. En général, c'est comme ça que Dieu m'utilise, où j'ai des thèmes, j'enseigne sur ces thèmes, et il y a des moments où j'insiste plus sur telle ou telle vérité, suivant ce que je ressens dans mon esprit, dans mon cœur. Amen. Donc Josué chapitre 1. C'est Dieu qui va donner des recommandations au serviteur Josué, au serviteur de Dieu. Et en fait, vous savez, Josué, il va prendre la suite du leadership du plus grand des leaders de l'Ancien Testament. Alors quand vous suivez, vous êtes après un grand leader, vous avez plutôt intérêt à être performant. Parce que vous savez, les gens ont quelque chose dans leur cœur. Ça s'appelle l'esprit de comparaison. Et en général, ils ne sont pas tendres avec vous quand vous êtes leader. Il est plus facile d'être sur une chaise et d'être dire « Oh, regardez son costard, regardez qu'est-ce qu'il a celui-ci, il vient d'où, quelles leçons il veut nous donner, etc. » Vous voyez, et être en train de critiquer mot après mot, etc., etc. C'est très facile de le faire. Mais le jour où vous vous retrouvez devant une chaire et que les autres vous écoutent et que vous devez amener les autres quelque part, eh bien, vous avez plutôt intérêt à être prêt. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs, d'ailleurs, ne sont pas prêts, rentrent dans leur ministère et se prennent, tombent. Littéralement, je dirais pas se prendre une gamelle parce que c'est pas très poli, mais ils glissent sur de l'huile, entre guillemets, sur une peau de banane, ils se retrouvent par terre et ils ont du mal à se relever. Et en fait, il y a des raisons pour ça. Dieu nous a donné sa parole et la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Dieu qui nous parle, Dieu qui te parle, Dieu qui me parle. Si Dieu m'a laissé sa parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que j'ai un joli livre que j'emmène le dimanche matin et finalement que cette parole n'ait aucun impact dans ma vie. Donc Dieu va parler à Josué d'une façon puissante. Il va lui dire, parce que c'était une grande tâche qu'il devait accomplir, derrière Moïse, il dit verset 6 au chapitre 1, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage. » En observant et en mettant en pratique toute la loi, on pourrait rajouter toute la parole de Dieu que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, que j'ai fait écrire par mon Saint-Esprit, que j'ai soufflé à mes serviteurs, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de quoi ? Réussir. Afin de réussir. Afin d'avoir du succès. Afin de prospérer. Oh, ce mot des fois, prospérer. Ça y est. Non, 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 non. Prospérer, ça ne veut pas dire seulement la prospérité financière. Loin de là. Prospérer, dans le mot prospérer, dans la parole de Dieu, ça englobe énormément de choses. C'est vrai qu'il y a le côté financier, on est tout à fait d'accord, mais pas seulement le côté financier. Pas seulement. Parce que vous pouvez être riche et très malheureux. Un ministère peut être rempli d'argent et avoir des problèmes épouvantables. Il faut le savoir. Il faut le savoir. On va parler de beaucoup de lois spirituelles ce soir. Donc ce que Dieu veut, c'est la réussite. Afin que tu réussisses partout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ma parole, si vous préférez, ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer, pour mettre en pratique tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu nous appelle au succès quoi que nous fassions. La défaite n'est pas de Dieu. La déprime n'est pas de Dieu. La tristesse n'est pas de Dieu. Le trouble n'est pas de Dieu. Mais la réussite est de Dieu. La bénédiction est de Dieu. L'épanouissement est de Dieu. La bonne santé est de Dieu. La longue vie sur la terre est de Dieu. Si Dieu t'a parlé, c'est pas pour que tu sois enterré avec ta vision. Et il y a beaucoup de gens qui sont enterrés avec leur vision, malheureusement. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on enterre et ils avaient reçu de vraies paroles de Dieu. Ils avaient reçu une vision de Dieu. Ils avaient reçu des prophéties avec confirmation et surconfirmation. Et des choses qui étaient réelles. Pourquoi ne sont-ils pas entrés? Oh, le Seigneur n'a pas permis finalement qu'il entre dans son appel. C'est pas tout à fait ça. Il faut que vous sachiez une chose. Nous sommes dans un royaume. Regardons Colossiens 1, versets 12 et 13. Ça, c'est quelque chose sur lequel je médite très régulièrement sur cet aspect du royaume de Dieu. Vraiment très régulièrement sur l'aspect du royaume de Dieu. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une dimension qui nous manque énormément dans le monde francophone, la compréhension du royaume de Dieu. Je vous assure, il y a beaucoup de gens, bon, on les amène à Christ, on les amène dans les églises, mais la plupart des serviteurs de Dieu et la plupart des églises n'ont aucune dimension du royaume de Dieu. Ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Parce que nous savons tous que Jésus a été rencontré par Nicodème. Et Jésus a dit clairement, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça, nous le savons. Entrer, c'est une chose. Maintenant, comprendre que nous sommes dans un royaume et qu'il y a des clés dans ce royaume, des lois spirituelles, ça, c'est un autre business pour beaucoup de chrétiens et je dirais même pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Regardons ensemble, Colossiens 1, 12 et 13. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes dans un royaume. Un royaume, oui, ça je le sais, d'accord. Mais sachez une chose. Un royaume a des lois. Un royaume a un gouvernement. Parce qu'on va parler du gouvernement de l'église locale. Certains parmi vous, vous allez avoir des frissons peut-être, mais tant pis pour vous. C'est la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous sommes dans un royaume. Un royaume est régi obligatoirement avec une législation. Un royaume est régi avec des autorités, obligatoirement. Et je vais vous dire une chose, c'est pas dans ce monde, c'est pas ce monde qui a appris à Dieu comment gérer un royaume quelconque. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de l'institution des autorités d'une manière générale, dans le monde invisible et dans le monde visible. Donc faisons bien attention. Nous sommes dans un royaume, et ce royaume est régi avec des lois spirituelles. Donc il va falloir apprendre à faire un certain nombre de choses. D'abord, connaître ces lois, parce que l'ignorance tue. Et d'autre part, savoir pratiquer ces lois spirituelles afin d'en retirer un plein bénéfice. Parce que sinon, on ne pourra pas réussir. Alors, je sais que beaucoup de gens, quand on parle de réussite, disent, ça y est, réussite égale orgueil. Non, 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 non. Absolument pas. La réussite n'est pas égale à l'orgueil. Le monde a fait de la réussite la construction de son propre royaume. Quelqu'un qui réussit dans ce monde se construit son propre royaume. Nous, nous devons réussir pour la gloire de celui qui construit son royaume au travers de nous. Amen. Que quelqu'un dise amen. C'est très important à comprendre. Nous avons un roi. Et ce roi, pour l'instant, il est retourné au ciel, mais il revient. Et en attendant, il nous a délégué des responsabilités. Il nous a délégué la gestion du royaume. Et Dieu, dans son royaume, définit un certain nombre de lois spirituelles qui sont déterminées, qu'on ne peut pas changer. Donc ce n'est pas à nous d'essayer de faire changer Dieu, c'est à nous de changer nos mentalités et d'acquérir la mentalité du royaume. Nous allons parler église locale ce soir. Nous parlons église locale. Si nous voulons voir le succès dans une église locale, il y a des clés obligatoires. Vous ne pouvez pas déroger aux lois divines si vous voulez réussir. Vous ne pouvez pas avoir des résultats divins avec des mentalités humaines. Et c'est vrai qu'en France, le « moi, je pense que » parmi les chrétiens, c'est quelque chose qui est très fort. Et je vais te dire une chose, mauvaise nouvelle. Ce que toi, tu penses, Dieu n'en a rien à faire. Ce que je pense, Dieu s'en fout. Je tiens à le dire, je suis honnête avec vous. Moi, je l'ai réalisé il y a quelques années, ça a été dur à réaliser. Oui, Seigneur, moi, je veux ceci, je pense que... Dieu n'en fait rien. Pourquoi ? Parce que ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées. C'est ça le problème. Et ce n'est pas avec notre petite boîte qu'il y a là-dedans qu'on sera capable de pouvoir gérer le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Par contre, la Bible nous déclare que nous avons la pensée de Christ, donc il va falloir que nous nous élevions vers le Seigneur au travers de sa parole pour comprendre ce qu'il veut. Et ça, ça va demander un changement radical de mentalité. Parce qu'une mentalité du monde ne peut pas réussir dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons être transformés. Et les forteresses qu'il peut y avoir, qui ont été construites. Vous savez, ce monde ne connaît pas Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens mettent leurs pensées constamment dans le monde. Donc évidemment, le monde les influence. Le royaume les influence très peu. Ils vont à l'église pour manger un petit sandwich le dimanche matin. Vous savez, vivre avec un petit sandwich toute la semaine, c'est un peu difficile. Regardez les clochards dehors. Et beaucoup de chrétiens sont devenus des clochards spirituels, des handicapés spirituels, des gens qui ont poussé tordu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas renouvelé leur façon de penser, leur mentalité avec la mentalité du royaume de Dieu. Nous sommes dans un royaume qui est régi par un roi, avec des lois spirituelles. Et nous devons comprendre ces lois spirituelles. Et dans l'église locale, il va falloir comprendre un certain nombre de lois spirituelles. Qu'est-ce que c'est qu'une église locale ? Est-ce que c'est une association ? Est-ce que c'est un nom ? Est-ce que c'est un titre qu'un monsieur a qui s'appelle Monsieur le Pasteur ? Comment est-ce que va naître une église locale dans le royaume de Dieu ? Est-ce que c'est une transmission de père en fils ? Est-ce que c'est un besoin qu'on ressent, une dénomination qui dit « Nous avons fait des statistiques et dans la carte de la France, nous avons remarqué que dans telle région du monde, il n'y a pas d'église de notre dénomination, donc nous allons démarrer une église ?» Mais, tristement, vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas la volonté de Dieu. Amen. Alors, comment je vais vous dire de temps en temps, vous n'allez pas m'aimer. En général, on m'aime ou on me hait, c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais ce n'est pas grave, je préfère dire la vérité. Je répète, il y a beaucoup d'églises dans le monde, je dis bien dans le monde, qui ne sont pas la volonté de Dieu. J'appelle ça des boutiques, des supermarchés ou des kiosques. Ça dépend de la taille. Il faut être clair. Moi, je vis en Afrique, il y a beaucoup de boutiques qui s'appellent des églises. Et elles ne prospèrent pas. Et on a parlé, Dieu a parlé. Ça, pour faire parler Dieu, le contrefacteur sera puni de servitude pénale. Ah, pour faire parler Dieu, les chrétiens, ils sont forts. Vous savez, l'important, c'est pas de dire « Dieu m'a dit que ». On verra si Dieu t'a dit que, aux fruits. Hein? Vous savez, moi, je suis très prudent maintenant quand je m'adresse à mon église et je leur dis « Le Seigneur m'a dit que ». Oh, si je leur dis ça, ils savent que là, vraiment, le Seigneur m'a parlé très clairement, c'était cristal. C'était clair. Mais si je ressens profondément dans mon esprit, et souvent le Seigneur me dirige comme ça, avec des intuitions internes, des témoignages intérieurs, à ce moment-là, je préfère me taire. Et je dis simplement, voilà, frères et sœurs, je sens qu'il faudrait qu'on fasse ça. Et quand ça réussit, je dis, la gloire tout au Seigneur. Mais ne faisons pas parler trop vite de Dieu, parce que si on mettait toutes les prophéties et tout ce que les chrétiens déclarent avec leur bouche que Dieu a dit, je pense que déjà Jésus serait revenu et qu'on serait tous dans la gloire et tout le monde serait sauvé. Les 6 milliards d'êtres humains seraient sauvés. Moi, quand j'étais à l'école biblique à Réma aux États-Unis il y a plus de 10 ans, J'avoue que si on avait additionné toutes les visions de chaque étudiant de l'Institut biblique, je crois que la Terre entière serait déjà sauvée. Et pourtant, il y a 10% à peine, ou 5%, je ne sais plus les statistiques, des gens qui terminaient l'école biblique, une des meilleures écoles bibliques du monde, qui rentraient dans le ministère. Une église, ce n'est pas quelque chose dans lequel on va jouer, un parc pour jouer. Ce n'est pas un bateau de plaisance. Bumke disait, c'est un bateau de vie. L'église, c'est un hôpital. L'église doit répondre aux besoins, aux problèmes des gens. Si quelqu'un vient dans notre église, il doit se passer quelque chose. S'il ne se passe rien, si on n'est pas capable de donner la réponse dans la société où nous sommes. Ici, vous avez vos problèmes, vos difficultés. En Afrique, nous avons nos problèmes et nos difficultés. Aux États-Unis, ils ont leurs problèmes et leurs difficultés. Chacun a ses problèmes et ses difficultés. Maintenant, est-ce que l'église va donner la réponse? Moi, j'aime bien une chose, quand quelqu'un vient me voir, qu'il est dans un tas de problèmes, soit c'est un inconverti, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes par-dessus la tête, il me raconte ses problèmes, je le regarde, je souris et je dis, mais j'ai la réponse, c'est simple. Alors ça, j'aime ça, parce que les gens sont... Vous avez quoi? La réponse, oui, j'ai la réponse. Mais parce que si on n'a pas la réponse, autant que nous soyons, je dirais, autant que nous allions faire autre chose. C'est très clair. Allons planter des choux, ça sera mieux. Ça fera moins de mal. Donc quand on s'embarque dans l'église, on ne peut pas blaguer. C'est une aventure dans laquelle d'ailleurs certains s'aventurent dans cette grande aventure, excusez la répétition, mais il faut le dire, au bout de 6 mois ou 1 an, ils commencent à voir que ceux qu'ils ont critiqués, ils étaient meilleurs qu'eux. Ils réussissent mieux qu'eux. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens pensent que l'église, finalement, c'est simple, c'est facile. Ils sont assis, ils disent, ah, moi, si j'étais le pasteur, je ferais ça. Pas de problème. Si j'étais le chanteur du groupe de louanges, mais je chanterais 50 fois mieux, sans problème. Si j'étais à la place d'un tel ou d'un tel, je ferais le job d'une façon tellement meilleure. Et quand ils sont à la place, ils sont bien plus minables, évidemment. L'église locale n'est pas, comme on dit en anglais, piece of cake. Ça veut dire que pas quelque chose de facile. Il faut le dire. L'église locale, c'est pas je suis pasteur, je vais passer 2 heures à travailler le dimanche matin avec mon costume cravate, 2 heures la semaine, et le reste, c'est bien, on se repose. Quand les gens pensent ça, échec assuré. Une église, c'est une ordonnance divine. Une église, c'est Dieu qui prend quelqu'un, un homme et ou une femme, et qui va mettre une onction sur cet homme ou sur cette femme. Une onction, c'est quoi? Une onction, c'est pas guili-guili, comme beaucoup ont fait de l'onction. C'est pas ça. Une onction, c'est la puissance de Dieu qui vient descendre sur vous et qui vous revêt d'un manteau divin pour vous donner une capacité à pouvoir réaliser ce que Dieu vous appelle à faire. Votre destinée divine. Dieu a des plans pour nous, frères et sœurs. Et Dieu a des plans de paix. Dieu a des plans de succès pour nous. Dieu n'a pas des plans de défaite. Si aujourd'hui vous êtes dans la défaite, ou si vous êtes dans le ministère et que les choses ne marchent pas,
eh bien sachez une chose.
Je suis. J'ai réussi à maîtriser la technique là-bas. Mais ça m'a demandé 10 ans quand même. Maintenant c'est bon, on a mis des onduleurs partout, des trucs de secours, des trucs... Enfin, on s'est arrangé, maintenant tout va bien. C'est bon, merci. Merci, c'est bon, avec le fil ça va aller. Donc l'église ne commence pas comme ça sur l'initiative d'une personne. L'église c'est pas quelque chose qu'on décide parce que finalement, un peu plus fort ça serait bien. En tout cas pour moi ça serait bien, merci. L'église c'est pas quelque chose qu'on fait parce que finalement on divise une église. Vous savez, il y a des gens qui démarrent une église en divisant une église. Malheur à eux, malheur à celui qui fait ça. Il emmène tout un groupe avec lui et divise. Ça ne commence pas comme ça une église. Une église ne commence pas non plus parce qu'on vous a donné une prophétie. Attention. Ça commence pas comme ça du tout. Mais une église commence quand un homme ou une femme a un fardeau dans son cœur. Dieu met quelque chose de spécial dans son cœur. Et cette personne est visitée. est visitée par le Saint-Esprit. Et d'un seul coup, elle est revêtue par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, elle peut entrer. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais bon, j'ai un appel de Dieu. J'ai un appel de Dieu. Et plein de gens, parce qu'ils ressentent cet appel, ils veulent entrer dans leur appel. Mais il faut que vous sachiez une chose. Il y a un temps où on est appelé, et il y a un temps où on est mis à part. Parce que le ministère est surnaturel. Je répète, le ministère est surnaturel. J'aime bien ce mot français, surnaturel. Parce que surnaturel, c'est quelque chose qui veut dire au-dessus du naturel. Et vous entrez dans beaucoup d'églises, c'est vraiment le naturel. Et quand dans une église, c'est le naturel, c'est qu'il y a un gros problème. Une église, c'est surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel. Et beaucoup de gens prennent ça comme... Bon, c'est dire, voilà, je suis pasteur maintenant. Hein. Le Seigneur m'a dit que je serai pasteur, donc je suis pasteur. Non, ça marche pas du tout comme ça. Il y a un temps d'appel et un temps de mise à part. L'appel, vous ne pouvez rien y faire. Jérémie en est un bon exemple. Jérémie a été appelé dès le ventre de sa mère, du sein de sa mère. Donc le pauvre Jérémie, il n'était pas en train de dire, « Seigneur, je vais être prophète. Seigneur, je vais être prophète. » Non, il n'était pas en train de faire ça. Il risquait pas, puisque de toute façon, il était encore dans le sein de sa mère. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Souveraineté divine, on est d'accord. La souveraineté divine est sur toi. Il a un plan, il t'appelle à faire quelque chose, d'accord. Maintenant, si tu entres pour entrer dans son plan, ce n'est pas la souveraineté divine. Ça va dépendre de toi et de moi. Ça s'appelle la mise à part, la séparation. Et des fois, entre le temps d'appel et de mise à part, il peut y avoir des années et des années et des années. Vous voulez un exemple ? Élisée, par exemple. Élie va voir Élisée. Dieu dit à Élie, parce qu'il était vraiment, il a passé un moment extrêmement difficile, et il a été extrêmement attaqué spirituellement après cette histoire avec les prophètes de Baal, qu'il a fait tuer, cette idolâtrie qu'il a arrachée du peuple d'Israël d'une façon fracassante. Il se retrouve dans un moment de déprime terrible, à tel point qu'il en a marre. Il veut à la limite que mourir, et il va dans le désert. Il faut le dire, c'était un moment de découragement, parce que s'il avait voulu mourir, la recette était simple. Il suffisait d'aller voir Jézabel et faire « Coucou Jézabel !» Et il était tranquille, le jour même il était mort. Il n'y avait pas de problème. Donc, s'il n'a pas fait ça, c'est que vraiment il était découragé et qu'il n'en pouvait plus. Et dans l'Ancien Testament, ils avaient des attaques démoniaques devant lesquelles ils étaient coincés, parce qu'ils n'avaient pas le nom de Jésus. Donc ils subissaient des trucs très difficiles. C'est pour ça qu'on les voit des fois marcher en dents de scie. Amen, nous sommes sous le Nouveau Testament, couverts par le sang de Jésus, nouvelle créature. Le diable a été vaincu, nous avons juste à marcher dans notre victoire. Amen. Ça, c'est super, ça faut l'apprendre. Et en fait, ce qui s'est passé avec Élie et Élisée, c'est tout à fait typique. Élie va voir parce que Dieu lui a dit. Ce sera lui qui va te remplacer. D'ailleurs, Élie l'a accepté. C'est dur quand même de se dire, le prochain, je vais te le montrer. Il va prendre ta place. Quand même, c'est un peu dur au niveau du ministère, mais ça arrive parfois. Et alors, Élie va voir Élisée, il lui met son manteau, c'est un symbole, symbole de l'onction. Et Élisée va faire une chose, il va suivre Élie, et pendant 10 ans et demi environ, si on calcule bien, il va rester au service de son maître. Et qu'est-ce qu'il va faire ? De la sonorisation. Amen ! Même pas. Il va laver, enfin il va apporter l'eau pour laver les mains, donc une bassine pour que son maître se lave les mains. Il va courir en avant quand Élie va lui dire, tu sais, le Seigneur m'appelle à aller à Gilgal ou dans telle ou telle ville. Élisée courait comme un jeune homme et prévenait tout le monde. Vous savez quoi ? La nouvelle, le prophète arrive, préparez-vous, il arrive tel jour, etc., etc. Et il préparait un endroit pour le loger, etc., etc. C'est tout ce qu'il faisait. Il n'était pas en train de faire « touch ». Non, il n'était pas en train de faire ça. Par contre, il observait comment l'onction fonctionnait. Il faisait rien, Élisée, rien. Mais par contre, il a été fidèle. Et il observait comment un ministère fonctionnait. Il a appris, il a regardé comment un ministère fonctionnait. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a reçu la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Et au moment où il a reçu l'onction de Dieu, hop, il a démarré dans son ministère. Donc, on ne peut pas démarrer dans un ministère sans avoir d'onction. Ça, c'est très clair. On ne peut pas. On ne peut pas. Et le ministère pastoral, c'est la même chose. Pas d'onction pastorale, c'est mort. Quand, par exemple, vous avez des anciens seulement dans une église, qu'il n'y a pas d'onction pastorale, ben, je vais vous dire une chose, l'église ne prospérera pas. Ça, je tiens à vous le dire. Et il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. J'ai été, il y a bien des années, dans une église qui était tenue par des anciens, où personne n'avait d'onction pastorale, et cette église n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais cette église mourait de plus en plus, l'onction était partie, il n'y avait plus rien qui se passait, ou très peu de choses qui se passaient. Et c'est normal. C'est normal. Alors, on va parler un peu du ministère pastoral. D'abord, dans Éphésiens 4, verset 11, nous savons qu'il y a 5 ministères. Et là, je vais les décrire en quelques minutes, parce que là aussi, je vois qu'il y a une confusion, mais absolument faramineuse, moi, qui m'étonne toujours, quand j'entends parler des ministères. Éphésiens 4, 11, et il a donné les uns comme... Il a donné les uns comme quoi? Comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et quand vous lisez la suite, pour le perfectionnement des saints, etc., etc., pour la croissance du corps. Pas de ministère, pas de croissance. C'est clair. Et dans le ministère, il y a une croissance numérique, horizontale, et il y a une croissance spirituelle, verticale. Ça, il faut bien le comprendre. Dans une église, il ne faut pas qu'il y ait une église qui soit remplie de bébés spirituels. Il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de bébés spirituels. Ils sucent leur pouce encore quand ils ont 20 ans. Ils prennent leur biberon à 15 ans. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est terrible. Des gens qui n'ont pas grandi dans le Seigneur. C'est absolument épouvantable. La Bible nous dit clairement que s'il y a des vrais ministères, il doit y avoir croissance. Il doit y avoir croissance, donc il doit y avoir obligatoirement influence. On va en parler, ça aussi, très important. Ce mot influence. L'église locale doit avoir une influence. On va se concentrer sur le ministère, sur les 5 ministères. Enfin, le ministère pastoral. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, il parle de l'apôtre. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? C'est pas un titre. Moi, quand j'entends apôtre machin, apôtre truc, apôtre bidule, en 25 ans de conversion, je pense que j'ai rencontré un apôtre. C'était un homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu, en Amérique du Sud, qui a révolutionné une région par son ministère. Parce que Paul parle des signes d'un apôtre. Il parle pas du titre d'un apôtre. Il parle des signes d'un apôtre. Et franchement, en ce moment, dans le corps de Christ, à droite, à gauche, on joue au titre. Apôtre truc, apôtre machin, prophète bidule. Alors quand dans une église de 100 personnes, vous avez 3 apôtres et 2 prophètes et 5 pasteurs, vous posez des questions. C'est incroyable. C'est incroyable. Un vrai apôtre, c'est quelqu'un qui a une onction fabuleuse. Il arrive dans une région où Christ n'a jamais été nommé. Il prêche l'évangile avec puissance. Signes, prodiges et miracles, ce que nous avons chanté tout à l'heure, lui, c'est monnaie courante. Lisez les actes, vous verrez des apôtres, ministère apostolique en action. Des gens sont guéris, délivrés. Il y a la puissance de Dieu. Le témoignage de Christ commence à s'installer quelque part où il n'y avait jamais eu le témoignage de Christ. C'est pas « je m'appelle apôtre truc et je te pique la moitié de tes membres ». Ça, c'est pas apôtre truc, c'est voleur truc. C'est pas le même titre. Épouvantable. Il y a des gens, vraiment, c'est incroyable. Faisons attention. Vous savez, c'est pas l'étiquette qui fait l'intérieur de la boîte de conserve. Hein. D'accord? N'oubliez pas. Si vous aimez bien ce qu'il y a dans la boîte de conserve, si elle est vide mais qu'il y a une belle étiquette, ça vous aidera pas beaucoup. Vous aurez toujours faim. Soyons clairs. Donc un apôtre va dans un endroit, il prêche Christ, et d'un seul coup, il y a un certain nombre de gens qui se convertissent, et il va former une église, rapidement. Parce qu'il y a une onction très puissante, beaucoup plus puissante que l'onction du pasteur. Beaucoup plus puissante que l'onction l'évangéliste, beaucoup plus puissante que l'onction l'enseignant. Parce qu'en fait, le ministère apostolique englobe les autres ministères. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une église qui commence à naître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nomme des anciens. Je dis il, l'homme, nomme des anciens. Je répète, il, l'homme, nomme des anciens. Et il laisse l'église comme ça. Et il s'en va. Il va dans un autre endroit et il recommence. Il prêche Christ avec puissance, signe, prodige et miracle. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un impact dans cette région où il est. Et d'un seul coup, les gens sont attirés. Parce qu'une puissante onction attire. Je répète, une puissante onction attire. Un vrai ministère est un aimant. Je répète, un vrai ministère est un aimant. Il faut être clair. Il faut être clair. Et plus l'aimant est fort, plus il attire. Moins l'aimant est fort, moins il attire. Donc tu attires ce que tu es. Nous apprenons tous. Amen. Et en fait, cet apôtre donc va dans un autre endroit, il fait la même chose, etc., etc. Et au bout d'un moment, il a créé un réseau d'église par lui-même. Il n'est pas en train de dire « Pasteur Thierry, quelle est votre couverture spirituelle ?» Vous n'avez pas de couverture spirituelle ? Vous êtes en danger, frère. Vous êtes en grave danger, frère. Je dois vous couvrir. Moi, je m'appelle apôtre Olivier de Rhin. Je dois vous couvrir, mon frère. Je dois couvrir vos églises. Et en fait, et après, ils vont dire qu'ils ont 60 églises. Voilà. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait 35 ans en Ouganda. Il me disait qu'il avait fondé 85 églises. J'étais super étonné. 85 églises à 35 ans, le gars. Waouh! Non, il n'avait pas fondé 85 églises. Il s'était arrangé pour avoir des trucs et des machins et utiliser d'autres ministères. Vous voyez? Comment voulez-vous fonder 85 églises à 35 ans? Phénomène rare, alors. J'aimerais plus étudier son ministère. Non, c'est pas possible, il faut être clair. Fonder une église demande du temps. Fonder une bonne église locale demande du temps et on va avoir un immense travail. On n'aime pas beaucoup travailler. Et devant, on va avoir d'immenses défis à relever. Je vous en donnerai quelques-uns qu'on a relevés et d'autres qu'on a encore à relever. On en a tous à relever. Par contre, il va falloir savoir comment les relever. Comment relever les défis. C'est très important. Donc, l'apôtre, lui, va aller de lieu en lieu comme ça, et au bout de 10 ans, 15 ans, il va y avoir un certain nombre d'églises. Regardez les actes des apôtres. C'est exactement ce que Paul faisait. Il y a des anciens qui sont nommés, mais tout le monde est bébé spirituel, donc il n'y a pas encore de pasteur. Et après, Dieu va susciter des ministères pastoraux. Des gens sont appelés, mais des gens ne sont pas encore prêts. Et souvent, c'est comme Paul, dans la région d'Asie mineure, acte 19, vous pourrez dire ça, je y passe brièvement, Paul va fonder la première école biblique du Nouveau Testament, centre de formation. Pendant 3 ans, il va louer l'école d'un nommé Tyrannus et il va enseigner des gens. Et on voit après, il écrit par exemple l'épître aux Colossiens. Et dans cet épître aux Colossiens, eh bien, il y a un serviteur de Dieu qui s'occupe de l'église, et Epaphras, si mes souvenirs sont bons. J'espère que je n'ai pas d'erreur théologique tragique, excusez-moi, pardonnez-moi, sur le nom. Et en fait, il l'a formé, et on voit, il écrit à cette église de Colosse, et cette église de Colosse, alors que Paul ne l'a pas fondée, est déjà bien haute, parce que si on devait nommer les églises, le niveau des églises auxquelles les apôtres ont adressé des lettres, on verrait qu'Éphèse numéro 1, deuxième c'est Colosse, ça, au niveau spirituel. Donc il y a eu des fruits. Un apôtre va former des leaders, pas en théorie, en pratique et en transfert d'onction aussi. C'est clair. Ces gens vont vraiment faire quelque chose, un bon boulot, vont continuer l'œuvre. Bon, l'évangéliste, nous le savons, il prêche l'évangile, mais l'évangéliste, il doit avoir des signes, des prodiges et des miracles. Parce que ça secoue les gens. Quand les gens voient des guérisons, ils font « Dieu est vraiment vivant !» Et à ce moment-là, ils commencent à ouvrir leur cœur. Et parfois ils se convertissent, parfois ils ne se convertissent pas, mais au moins, ça les secoue quelque part. Bon, le pasteur, lui, nous allons le voir, il doit diriger une église locale. Un jour, j'ai rencontré un pasteur, je lui ai serré la main, je lui ai dit « Ah, vous êtes pasteur, oui, c'est quoi votre église ?» Il me dit « Non, j'ai pas encore d'église. » Un berger sans troupeau, c'est pas un berger. Amen. Il faut être clair là-dessus. Ensuite, l'enseignant, nous savons, il explique la parole, etc., etc. Ok, d'accord. Et le prophète? Alors le prophète, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, je suis obligé de passer en 5 minutes. Le prophète, c'est pas une machine où on fout 100 balles et on a une prophétie. Parce que franchement, c'est une catastrophe. Il suffit qu'il y ait un prophète qui passe dans le coin, tout le monde. Seigneur, j'ai ma pièce. Je veux ma prophétie personnelle. C'est vraiment aberrant, aberrant. Un prophète reçoit certaines choses que Dieu va faire, souvent sur des mouvements de Dieu. Là où Dieu veut agir. Parce que Dieu, il y a des moments, on va étudier ça d'ailleurs, il y a des moments où il nous amène dans d'autres dimensions. Il y a des choses dans l'Église. Au début du siècle dernier, Dieu a restauré le baptême du Saint-Esprit au travers du réveil d'Azusa Street et dans le monde entier. Après, dans les années 40 à 50, eh bien, il y a eu un grand mouvement de guérison. Dieu a restauré la guérison divine dans le corps de Christ. Et ceux qui se sont convertis dans les années 60, 70 et début 80, eh bien, ils étaient issus la plupart des églises de Pentecôte qui prêchaient ce genre de choses. Jésus guérit, Jésus... Allez, un pentecôtiste. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient normalement. C'était à peu près, je crois, les quatre morceaux de phrases qu'ils mettaient régulièrement dans leurs assemblées. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Après, il y a eu une restauration de la louange et l'adoration. Après, il y a eu une restauration de l'enseignement, du message de la foi particulièrement. Dans les années 90, il y a une puissante onction qui a visité les gens pour qu'ils se secouent un peu parce qu'ils commençaient à s'endormir sérieusement. Mm-hmm. Oui, et d'ailleurs, beaucoup de gens en ont fait n'importe quoi, et beaucoup d'églises en ont fait n'importe quoi. C'est vraiment dommage, ça fait très mal. Et aujourd'hui, Dieu parle beaucoup à propos du leadership. Beaucoup, beaucoup sur le leadership. Le leader potentiel qu'il y a en nous pour le développer. Actuellement, c'est vraiment ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église. Il faut vraiment converger vers cela. Converger. Il faut être là où Dieu agit. Et souvent, ça se passe d'abord par des prophètes qui vont annoncer des choses que Dieu veut faire, veut restaurer, ou veut des dimensions que Dieu veut amener dans le corps de Christ. Maintenant, c'est vrai, les vrais prophètes, de temps en temps, pointent du doigt certaines personnes, mais ce n'est pas des machines à pointer du doigt. Et malheureusement, comme il y a une attraction, je dirais, charnelle, les gens sont... pour avoir leur prophétie personnelle. Ils font une grave erreur de faire ça. C'est la chair. Et je pense personnellement, c'est une opinion tout à fait personnelle, qui n'engage que moi, mais vous verrez qu'au ciel j'aurai raison, hein, quand on en discutera ensemble. En fait, je pense que Dieu ne suscite pas plus de prophètes parce que les gens sont trop charnels. Et que ça pose un problème. C'est un ministère qui est très difficilement gérable. Les gens vous appellent à n'importe quelle heure, ou vous invitent, est-ce que tu as une prophétie pour moi ? Et j'ai vu un certain nombre de gens qui avaient les prémices de ministère prophétique qui se sont complètement plantés, parce qu'ils ont été incapables de gérer ça. Incapables. Et ils commençaient à donner vraiment des choses, vraiment de vraies révélations. Et ça a été prouvé, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils se sont plantés parce qu'ils n'ont plus réussi à gérer ce genre de choses, et ils ont abusé de l'onction. Et ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, ils ne sont plus grand-chose, d'ailleurs, malheureusement. Alors le pasteur, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un pasteur, finalement ? On sait, un pasteur est un berger. Oui, d'accord. Mais beaucoup plus que ça. 1 Corinthiens 12. Moi, j'aime bien aborder le pasteur sous cet accent-là. 1 Corinthiens 12. Quelque chose que les Français n'aiment pas. 1 Corinthiens 12. Quand on a lu Éphésiens 4, 11, et en parallèle, on lit 1 Corinthiens 12, on va voir qu'on a l'impression que Paul commence à peu près par les mêmes choses, en quelque sorte. Hein ? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà Éphésiens 4, 11. Maintenant, 1 Corinthiens 12, il est dit, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres. » Tiens, ça ressemble fortement à Éphésiens 4, 11. « Deuxièmement des prophètes. » Tiens, ça ressemble ensuite à Éphésiens 4, 11. « Troisièmement des docteurs. » Ah, là, on change un peu de musique. « Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. » Tiens, ça, et de guérir. Ça ressemble fortement à l'évangéliste, ça. « De secourir et de gouverner. » Ah, de secourir et de gouverner. Ben oui, évidemment, j'entends. Pasteur. Évidemment, il a tout à fait raison. Pasteur. De secourir et de gouverner. Oui, tout à fait. Dieu a mis un gouverneur dans l'église. Moi, des fois, il y a des chrétiens qui m'appellent dans mon église gouverneur. Ah, oh, que je suis fier de ça. Non, mais c'est vrai, c'est une vérité. Parce qu'un jour, j'ai enseigné là-dessus. Alors, certains aiment faire un peu d'humour, comme ils savent que je suis terrible en humour. Ils en profitent un peu. Et en fait, il m'appelle gouverneur. Mais c'est vrai que nous sommes des gouverneurs de l'Église. Ah, que les gens n'aiment pas ça. Mais non, frère, il faut tout décider ensemble. Non. Désolé. La collégialité, l'Église n'est pas une démocratie. Je répète, l'Église n'est pas une démocratie. Amen, alléluia. L'Église n'est pas une dictature non plus. Amen, alléluia. Celle-là, on est tous d'accord là-dessus. Mais la première, déjà, c'est plus dur à avaler. Non, non. L'Église est une théocratie. Ça veut dire que Dieu règne au travers de ses serviteurs. Désolé. Désolé. Pasteur, vous êtes gouverneur. Amen. Amen. Mais maintenant, il faudra bien gouverner. Ça va être un peu plus difficile. Il faudra apprendre à gouverner aussi. Nous sommes dans le gouvernement divin. Dans l'Église locale, le pasteur est le gouverneur. Il va être obligé de prendre bien des décisions. Et il va faire bien des erreurs. Une chose qu'il faut comprendre dans le gouvernement divin. Dieu place ses serviteurs pour diriger son Église. C'est clair. Et nous devons diriger. Si un pasteur... J'ai vu des pasteurs qui laissaient les autres prendre des décisions à leur place. Parce qu'ils avaient peur de prendre des mauvaises décisions. Ils ont eu tort. Et leur Église s'est terminée d'une façon terrible. Vous savez, on peut très bien commencer dans le ministère et très mal finir. Amen. C'est pas parce que vous avez un don de miracle et de guérison comme beaucoup veulent. Hein, quand on voit Bénigne, tout ça, il y en a beaucoup qui se mettent à genoux et disent « Seigneur, je veux ce qu'il a. » Oui, mais vous ne savez pas la gestion d'un tel ministère. Waouh, les persécutions, les oppositions spirituelles, les pressions gigantesques, gigantesques, dans tous les domaines. Les gens ne savent pas, ils ne s'imaginent même pas. Moi j'ai goûté juste un tout petit peu et je peux vous dire que oh, ça fait mal. ça fait vraiment mal. Quand vraiment le Dieu commence à agir puissamment quelque part, je vous garantis, le diable ne vous fait pas de cadeau. Je vais vous dire une chose, si vous voulez être tranquille, que le diable vous foute la paix, dormez bien, il ne vous embêtera pas. Jusque là-haut. Et vous n'accomplirez que 0 plus 0, la tête à Toto. Ben oui, et beaucoup de gens, c'est comme ça. Beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas, ne savent pas au départ. Parce que Jésus, il lise les versets, oui, celui qui renonce à sa vie, qui porte sa croix, etc., qui me suivent, alors il aura des maisons, alors il aura ceci, alors il aura cela. Oui, mais ils oublient la fin du verset où Jésus dit des persécutions. Ça, on n'aime pas trop. L'épître de Pierre, la première et la deuxième, on ne la lit pas souvent, n'est-ce pas? Parce qu'il parle de la souffrance. C'est pas très agréable. Hein, la Bible nous dit clairement, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, mais ça, pasteur, c'est pour le premier et le deuxième siècle, on sait ce qui s'est passé avec les empereurs romains qui étaient cruels. Le monde spirituel n'a pas changé. Il n'y a pas de secret. Si on veut une bonne église locale, on passera à la casserole. Au petit feu. Ah, ça c'est clair. C'est très clair. Il n'y a pas d'enfantement, mesdames, vous le savez tous. Il n'y a pas d'enfantement dans la joie. C'est dans la douleur. Par contre, on est heureux une fois que le bébé est né. Mais on n'aime pas. Hein, il y a des dames qui... Non, je ne veux plus être enceinte. Ça fait trop mal. Oui, c'est vrai. L'œuvre de Dieu fait mal. Ah, l'œuvre de Dieu, ça secoue. L'œuvre de Dieu n'est pas pour ceux qui veulent, entre guillemets, une certaine réussite, sans vouloir le côté négatif. La souffrance, les difficultés, les persécutions, les moments où tout a l'air de partir comme ça en cacahuète. Ça, c'est clair. L'œuvre de Dieu est pour ceux qui veulent vraiment être persévérants contre vents et marées. Le pasteur est un gouverneur, c'est aussi un capitaine de bateau. Et si vous êtes dans son église, vous êtes dans le bateau. Alléluia, marins, moussaillons. Et les marins et les moussaillons, vous savez, je ne sais pas pourquoi, dans les églises, ils sont pas comme les marins de la marine nationale ou de certains, vous savez, quand on lit un peu l'histoire de la marine, je ne suis pas très connaisseur là-dedans, mais en général, un équipage, il doit être extrêmement soudé. Et quand il y a la tempête qui vient, les marins ne sont pas en train de dire... Alors, capitaine, pourquoi on est dans la tempête? Non. Mais c'est bizarre parce que les chrétiens de l'église locale, en général, ils sont comme ça. Le pasteur va être celui qui va diriger l'église. Il va gouverner l'église. Donc il va falloir qu'il apprenne. Parce que, vous savez, on ne peut pas apprendre simplement dans un institut biblique ou même simplement avec la Bible. Il va falloir qu'on mette, regardez ce qu'on a vu au début, les premiers versets. C'est bien, on médite, mais Dieu a dit à Josué, il faudra que tu mettes en pratique. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est l'expérience. L'expérience est irremplaçable. Dans une église locale, pour un pasteur et une église, c'est irremplaçable. L'expérience. Passer par des moments faciles et difficiles. Vous pouvez avoir la meilleure connaissance du monde, vous passerez par des moments faciles et des moments difficiles. Vous passerez par des moments extraordinairement glorieux, où vous aurez le vent, poup, où tout marchera comme sur des roulettes, et des moments où la tempête semblera interminable. Interminable. Et là, le capitaine, il faudrait qu'il sache très bien naviguer. Vous savez, quand vous avez un bateau à voile et que vous avez la tempête, vous ne sortez pas la grand voile et le spi. Mettez la petite voile. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, je ne me souviens jamais. Certains vous la connaissez. Bon, mettez la toute petite voile, quelques mètres carrés. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous passez la tempête. Et un bon navigateur saura toujours se sortir de la tempête et après remettre les voiles et continuer le chemin. Parce que quand Dieu nous donne une vision, il nous donne une direction, il nous donne un cap, un objectif à atteindre. Mais pour réaliser cet objectif, pour entrer dans cet objectif, eh bien, il va falloir une chose. Il va falloir un bon petit capitaine qui sache bien naviguer et qui sache exactement quoi faire étape après étape après étape pour arriver dans la vision. Parce que avoir une vision, c'est bien. Moi, je suis toujours émerveillé avec des chrétiens qui me disent « Pasteur, le Seigneur a dit que je serai un grand prophète. » Je leur dis « Oui, c'est bien. Bienvenue dans les persécutions et les difficultés. » « Non, non, pasteur, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. J'ai un grand appel de prophète. Le Seigneur m'a dit que par toute la terre, j'irai prêcher sa parole. » « Oui, attends. » mais tu vas passer à la casserole. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Mais c'est clair. Parce que s'ils nous utilisaient comme ça, on exploserait. Ah, c'est clair. Si vous étudiez l'histoire des ministères, il est exceptionnel que Dieu mette une grande onction sur quelqu'un assez rapidement. C'est exceptionnel. La plupart du temps, Dieu va donner une certaine onction. Et il va falloir que tu utilises cette onction. Et au début, elle n'est pas très forte, cette onction. Et tu dois pédaler sérieusement pour avancer. Mettre tous tes efforts pour avancer et pour pouvoir commencer à entrer dans la vision et à essayer de réaliser la vision. Pourquoi ? Parce que l'onction, c'est quelque chose qui va produire. Regardez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 nous montre un principe sur l'onction. Il y a beaucoup de choses. J'aborde vraiment un aspect de l'onction ce soir, mais il y a énormément d'aspects de l'onction. Regardez Luc chapitre 4, verset 18. Nous connaissons tous ce passage, c'est Jésus qui prend le rouleau du prophète Ésaïe, chapitre 61, donc d'Ésaïe, et en fait il va lire cette parole prophétique qui avait été écrite 700 ans plus tôt, et qui est en train de se réaliser sous les yeux des Israélites. Et il va dire une chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Une onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient sur quelqu'un ou dans quelqu'un pour l'onction de la nouvelle naissance, mais dans le Nouveau Testament, il y a trois onctions. L'onction de la nouvelle naissance, qui, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, et il nous met dans une position de fils ou de fille du roi des rois. Ensuite, il y a l'onction du baptême du Saint-Esprit, deuxième onction pour tous les croyants. Et la troisième onction, c'est l'onction du ministère, pour ceux qui sont appelés au ministère, et que Dieu, donc, après, sépare, met à part, revêt d'une mesure de son esprit. Et Jésus dit ici, regardez, l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc l'onction du Seigneur, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'onction est productrice. Je répète, l'onction est productrice de fruits. L'onction est productrice de fruits. Si vous êtes évangéliste, obligatoirement, vous produisez des âmes qui viennent dans le royaume. Si vous êtes enseignant, vous produisez des éclairages, entre guillemets, dans l'esprit des gens par rapport à la parole de Dieu. Si vous êtes pasteur, eh bien, vous produisez des fruits, des brebis qui vont venir dans votre église. Et votre église, ça doit être une pépinière. L'église locale est une pépinière. Et un chrétien qui va naître de nouveau, il est planté dans cette pépinière. Et c'est le pasteur qui va créer l'atmosphère dans laquelle chaque plante spirituelle va devoir s'épanouir. C'est pour ça que le pasteur a une sacrée responsabilité. Une responsabilité très importante. Vous savez, le pasteur, il doit avoir toutes les casquettes. Et c'est un peu la difficulté du pastorat. Si c'est un mauvais gestionnaire, il pourrait être un très bon prédicateur, il mettra tout son ministère en l'air. Il y a des gens comme ça, qui marchent avec des dettes sur dettes sur dettes sur dettes, où ils empruntent, où ils prennent des pas de foi. Je connais un jeune comme ça qui est vraiment, vraiment un bon ministère parmi les jeunes, et il a quasiment tout fichu en l'air aujourd'hui. Pourtant, c'était un garçon brillant, vraiment qui portait des fruits. Mais alors, dans tous les magasins où vous allez dans la ville de Bujumbura, on vous dit, sans rien vous dire, vous connaissez un tel oui. Alors on vous dit, ah oui, il me doit de l'argent, est-ce qu'on peut le... etc, etc. C'est terrible. Avoir une réputation comme ça, c'est terrible. Donc, faire très attention. C'est pas parce qu'on a un don qu'obligatoirement on réussira. Il y a des gens qui construisent sur des dons. On ne construit pas sur un don, on construit sur le caractère de Christ. Que quelqu'un dise amen. Parce que vous pouvez avoir un don, vous pouvez avoir une superbe onction, et vous pouvez tout faire voler en éclats. C'est terrible. J'ai vu des gens qui étaient doués pour la louange et l'adoration, mais des gens qui vous amenaient dans la présence de Dieu. Fabuleux. Il touche un piano, ouf, l'onction qui est là. Il y a des gens, vraiment, ils ont ça. C'est leur appel, c'est leur onction. Le problème, c'est que de temps en temps, ils passent un peu trop à la station-service. Ils se gonflent, là. Et ils se gonflent tellement qu'ils s'enorgueillissent et ils tombent. Et le monde les récupère. Je vous donne un exemple, Art Kelly. Vous ne connaissez pas ? Vous ne connaissez pas Art Kelly ? Non. Ou R. Kelly ? R. Kelly, c'est ça. C'est un chanteur très populaire maintenant. Nous, on l'appelle R. Kelly avec l'accent là. En fait, c'était quelqu'un qui dirigeait la louange, mais qui a fait des chants, mais absolument. Mais ouin. Incroyable. Et il s'est fait récupérer par le monde. Aujourd'hui, il chante des poubelles, des détritus. Mais vraiment, quelqu'un, mais de ultra doué. Franchement. revêtu de dons incroyables. Il a tout fichu en l'air. Pourquoi ? Parce que vous ne construisez pas sur un don. Et il y a des gens, parfois, ils commencent dans le ministère, ils ont signe, prodige et miracle. Et 5 ans plus tard, ils n'ont plus signe, prodige et miracle. Pourquoi ? Parce que nous devons grandir en même temps que notre don. Notre caractère doit se façonner. Le caractère se forge. Je vais en parler dans quelques minutes. D'abord, je voudrais revenir sur l'onction. L'onction a une influence obligatoire. L'onction est productrice. Quand vous allez dans une église et que vous sondez la température de l'onction, il n'y a rien, ça en dit long déjà. Ça en dit long. Si le message ne vous nourrit pas, ça veut dire que ça en dit long aussi. Très long. Il faut faire très attention à ça, parce que c'est comme ça qu'on s'éteint spirituellement. Nous avons besoin de l'onction des ministères. L'onction des ministères permet au corps de Christ de grandir horizontalement et verticalement. Ça, c'est obligatoire. L'onction produit quelque chose. Elle est productrice. Donc c'est fondamental. Donc quand il y a quelqu'un qui est loin, réellement, qui a une onction pastorale, il va y avoir production. Son église a les clés pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir réussir dans le ministère. Alors là, il faut comprendre quelle vision nous avons. C'est très important. Il y a des gens qui démarrent dans le ministère, Dieu leur donne une vision, et parce qu'ils entendent que c'est un peu à la mode de faire tel ou tel truc, ou c'est dans le vent de faire telle ou telle chose, ils commencent à dévier de leur appel. Si vous déviez de votre appel, si votre église dévie de son appel, attention. Il faut toujours revenir à son appel, régulièrement. Et la vision, normalement, elle est dans le cœur du serviteur, et le serviteur doit la transmettre à son église. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises locales, ils ne savent même pas pourquoi, quelle est la vision de l'église. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'une vision, c'est ce qui alimente notre moteur. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Parce que la vision nous permet de voir à des dizaines de kilomètres avant où nous en sommes. Moi, je suis un visionnaire. J'aime être un visionnaire. Je regarde toujours devant. Aujourd'hui, on est une église de 900 membres, mais ma vision, c'est d'en avoir une de 5000. Et ça fait des années que j'ai cette vision-là. Parce que je sais que le Seigneur veut qu'on ait ça. Mais on doit travailler pour ça. Et on continue à travailler parce qu'on a cette vision. Et il y a un moment où on doit constamment remodeler, merci pour la traduction. De remodeler notre vision, de travailler notre vision, d'élargir notre vision. Sinon, on reste au même endroit. On piétine, on tourne en rond. Et je vous garantis, si vous avez des chrétiens qui tournent en rond constamment parce qu'ils ne sont pas bien dans la vision de l'Église, au bout d'un moment, vous allez vous endormir complètement. Et le pire, c'est de raviver une église qui est endormie. Quel boulot. Waouh. Extrêmement difficile. Par contre, quand une église est dans le feu, il faut l'amener dans les hauteurs. Et alors là, il faut devenir un expert. Il faut avoir l'art du pastorat pour amener l'église. On va en parler des phases. On parlera des phases surtout donc, dans les deux prochaines séances. Mais déjà, je vous montre certaines choses. Et un leader, un pasteur, il doit s'entourer de gens et méditer des grandes visions. Très important. Moi, je passe mon temps, souvent, à regarder d'autres ministères et à voir là où ils en sont. Je lis des livres de gens qui ont réussi. Si vous lisez des livres de gens qui sont intellectuels et dans la défaite, ben vous n'irez pas loin. Je vous garantis, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. C'est un principe de leadership. Si vous n'êtes pas constamment à des dizaines de milliers de kilomètres de ce que vous êtes en train de faire, vous n'avancez pas. C'est un principe simple. Nous avons besoin d'être motivés en nous-mêmes. C'est clair. Si tu regardes toujours au jour le jour, tu t'enfermes. Si tu es entouré de gens médiocres, tu deviendras médiocre. Rappelez-vous que la médiocrité, c'est quoi ? C'est moins que moyen. C'est le 6 ou 7 sur 20. Au moment, regarde, j'ai eu un 6,5, c'est pas mal, hein? Très médiocre. Et beaucoup de gens sont comme ça, se contentent de la médiocrité. Si vous vous contentez de la médiocrité en tant qu'église locale, si un leader se contente de la médiocrité, il a tort à 100%. Il faut rechercher un esprit d'excellence. Il faut regarder des gens qui sont déjà beaucoup plus haut. Moi, je me passionne pour les grands ministères, j'aime ça. Franchement, j'étudie. Quand j'entends un nom, par exemple, je fais des recherches sur Internet, je cherche un livre, etc. Je me dis, pourquoi il en est arrivé là? Quelle est la raison qui l'a propulsé jusque-là? Pourquoi est-ce qu'un jour son église a explosé? Dans le bon sens du terme, bien sûr. Pas parce qu'il y a eu un terroriste. Mais d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Il y a eu le catalyseur qui a fait que son église, d'un seul coup, a complètement décollé. Étonnamment. C'est vraiment intéressant. Je me suis mis la télé chrétienne au Burundi, on reçoit la télé chrétienne américaine. On a 4 chaînes chrétiennes, 24 heures sur 24. J'aime ça, parce qu'ils montrent la crème de la crème. Prédicateurs américains, vous les voyez, ils ont des églises. Ah, c'est sympa ça. Un son impeccable, truc impeccable, costard impeccable, le groupe de louanges impeccable. Enfin, tout est impeccable, ça c'est ce qu'on vous montre. Il y a toujours des défauts derrière, nous le savons. Mais au moins, ça nous amène à réfléchir. Parce que si tu es avec 30 personnes, tu commences à te dire « j'ai un petit problème quelque part ». Quand on est trempé là où il fait très chaud alors que vous êtes en train d'avoir froid, des fois vous vous rendez pas compte qu'il fait froid. Ou que c'est très froid. C'est d'un seul coup quand vous êtes près de la chaleur, vous dites « hey, finalement, je suis complètement endormi ». Et c'est là où on se remet en question. Une église doit se remettre en question dans le bon sens du terme, non pas dans les directions qu'elle prend, mais dans sa façon de voir les choses. Un leader, c'est la même chose. Il doit être enseignable. Marcher de hauteur en hauteur. Moi, je ne suis jamais satisfait. Quand j'arrive à un objectif, en général, je suis déjà tellement en train de penser à là où je veux être que je ne suis pas en train de dire « Ah, 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 ça m'arrive finalement !» Non, non, c'est pas du tout ça. Parce que quand vous êtes comme ça, ça veut dire que vous désiriez tellement la chose que ça arrive. Puis au bout d'un moment, vous allez être content, puis vous allez rester là. Et si vous faites ça, vous ne progresserez jamais. Vous n'aurez jamais une vision élargie. Et ça demande du temps d'avoir une vision élargie. Ça demande d'aller voir des gens, d'étudier la vie de gens excellents. Je parle à quelqu'un ce soir ? Amen. Oui, oui. Si vous saviez, si vous pouvez saisir ça déjà, ça sera pas mal. Je vous garantis, beaucoup de gens... Et avec pratiquement tous les pasteurs avec lesquels je discute, les gens me disent, mais oui, mais moi, à chaque fois que j'annonce une vision, les gens me... Pasteur, reviens sur terre avec nous. Et ça, c'est pas bien. Au contraire, les brebis devraient dire, pasteur, on est avec toi 100%. Tu veux aller dans les hauteurs? Ok, on va t'aider à le faire. Méditez sur des grandes choses, sur des immenses choses. C'est très important. Ça alimentera, ça vous aidera à être motivé. En vous disant, non, non, on a ça, mais on n'est pas content. L'église a doublé cette année? Non, mais on n'est pas content. Je ne suis pas content avec ça. Je ne suis pas satisfait avec ça. Celui qui devient satisfait un jour, il est foutu. Ah, c'est terminé. Il est cuit. Cuit! Si tu es satisfait avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es foutu. Tu vas t'endormir. Parce que tu dis, voilà, je suis arrivé. Vous savez, il y a des pasteurs, par exemple, ils démarrent des églises, et au début, vraiment, toutes les églises... C'est dur, il faut être clair. Il n'y a que certains qui ont exercé tout un ministère pendant un temps dans une région, qui après démarrent une église, où là ils démarrent en général sur les chapeaux de roue, c'est beaucoup plus facile. Mais des gens qui initient une œuvre à partir de rien, c'est du boulot. Beaucoup de travail, et pendant des années, il y a des pasteurs qui travaillent durement, et au bout d'un moment, ils arrivent à un certain seuil. Alors, ils s'achètent leur belle bagnole, ils s'achètent leur maison, l'église marche bien, tout va bien, ça va. Et 20 ans plus tard, ils sont au même niveau. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'alimentent jamais leur vision régulièrement. Ils s'auto-satisfont. Excusez-moi, mais mon français qui est épouvantable. Satisfont ou satisfassent? Ils s'auto-satisfassent. Merci, bon, me corriger. Non, s'auto-satisfont? Vous êtes d'accord? Les français, vous êtes d'accord? Ça va, ok, ça va. S'auto-satisfont ou satisfassent? Qui a raison, je ne sais pas. Peu importe. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont arrivés quelque part, ils estiment qu'ils ont un bon niveau, donc ça va. Ils font une grave erreur. Ne jamais faire ça. Une église, comme disait un frère un jour, on n'a pas encore construit la plus grosse église du monde. Non, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux. Amen. On entend parler de grosses églises. Vous savez, avoir une grosse église, c'est pas une fin en soi. C'est pas du tout ça. L'important, c'est d'avoir un impact dans la société dans laquelle nous sommes. L'important, c'est que notre église locale puisse avoir une réponse à ceux qui sont en train de mourir dehors. Et qu'ils puissent trouver l'amour de Christ. d'être transformé. C'est ça qui est important. C'est pas de se dire, je suis pasteur d'une église de 1000 membres. Ça, c'est minable. Ça, c'est petit. Ça, c'est penser petit. Oui, c'est vraiment penser petit. C'est minable, ça. Raisonner comme ça et faire une telle déclaration pour un pasteur, ça veut dire qu'il est minable, qu'il est médiocre, moins que médiocre encore. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que nos églises locales aient un impact. Que quelqu'un qui vient dans votre église, il y a quelque chose qui se produit. Une connexion divine qui est en train de s'établir dans sa vie. Et il réalise une chose, c'est qu'il est pécheur, qu'il a absolument besoin de la grâce, de l'amour de Christ. Et il se repent, il se convertit, il se donne au Seigneur, et c'est une brebis en plus qui vient dans le royaume. Donc ça, c'est important. Donc nous pouvons parler vision. Il y a beaucoup de choses à propos de la vision, de transmettre la vision, alimenter la vision. Je vous jette beaucoup de choses parce qu'on n'a pas le temps en trois séances de vraiment rentrer en détail. Mais très important par rapport à ça, si vous n'avez pas de vision, la Bible nous dit que sans vision, le peuple périt, littéralement, c'est le peuple est sans frein, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Une église qui n'a pas de vision, elle fait n'importe quoi. Elle tourne en rond, elle va dans une direction, elle entend qu'un tel a organisé un concert, que ça a marché, donc le mois d'après, elle veut organiser un concert en disant quel est le contact de... Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'elle fait. Elle essaie d'appliquer une méthode à droite, une méthode... Et puis, en fait, elle tâtonne, elle tourne en rond, et elle n'arrive à rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de motivation. Pas de motivation, un leader ne peut pas faire bouger les gens, c'est pas possible. Un leader ne pourra jamais faire bouger des gens qui ne marchent pas par conviction. La conviction est quelque chose d'important. Et la conviction, ça s'implante. C'est pour ça que quand quelqu'un a reçu le plan de Dieu, il commence à parler, et d'un seul coup, des gens sont touchés. Et des gens commencent à se joindre à lui. Et il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. On verra que c'est la phase de démarrage, où Dieu fait plein de miracles. Et on verra aussi que le réveil, après l'euphorie du démarrage, parfois est très dur chez certains pasteurs. On le verra. On étudiera tout ça. Donc, très important, le leader, il a vraiment la vision. La vision doit être alimentée et toujours, toujours, toujours ne jamais se contenter du petit. Penser petit vous amènera à croire petit et vous amènera à réaliser petit. Penser grand vous amènera à croire grand et à réaliser grand. Penser immense vous amènera à croire immense et à réaliser immense. Donc avoir un impact beaucoup plus important que ce que vous pensez. Et d'un seul coup, il y aura des catalyseurs dans votre ministère et les choses commenceront à se débloquer. Des choses que Dieu vous a dit des années auparavant. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit qu'il y a des années auparavant, qui sont en train de se réaliser sous mes yeux, sans même que je prie pour ça. Au Burundi, on va démarrer un de mes grands rêves, une télévision chrétienne. Et c'est un businessman qui est venu me contacter. Ça ne sera pas sous notre ministère, ça sera sous son association. Il sera propriétaire, mais il m'a donné de quoi faire pratiquement toute la gestion des programmes, etc., etc. Mais franchement, ça fait des années. Le Seigneur m'avait parlé il y a 15 ans sur ça, quand j'étais à l'école biblique. Et d'un seul coup, les choses s'ouvrent. J'ai pas cherché, j'ai pas dit, vous êtes businessman, s'il vous plaît, le Seigneur m'a dit, il y a 15 ans, de démarrer une télé chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Hein ? C'est lui qui est venu me voir. C'est lui qui est venu me voir. Et il m'a dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que vous pourriez... Oui, mais moi je sais pourquoi. Vous voyez, c'est les choses comme ça qui se produisent. Parce que après, les choses s'enclenchent. Mais avant d'arriver à les enclencher, il va y avoir des étapes. Il va y avoir bien des obstacles à faire tomber. Il y a des moments difficiles à vivre. Alors le pasteur, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Une chose qui est très très importante. Le pasteur doit courir sa course, non pas la course d'un autre, dans sa vision. Faites bien attention à ça. Chaque église locale, Dieu la veut avec certaines caractéristiques. L'objectif, bien sûr, une église en général, chaque église a des points communs, mais vous avez une vision particulière. Moi, je sais que par exemple, au début quand Dieu m'a appelé à faire l'église, il m'a mis à part, il m'a dit, cette église sera autofinancée. J'ai dit, merci pour le cadeau, Seigneur. On est dans un pays en guerre, les gens n'ont pas à manger, il n'y a rien qui fonctionne, l'économie est par terre, et c'était... pratiquement, je dirais, même pas au milieu de la guerre civile. Autofinancé, bon, ok, c'était bien. Moi, le petit blanco, j'étais là en train de dire, au Burundi, qui était en train de souffrir comme des bêtes, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a appelé avec ma femme à faire une église, et elle est autofinancée. Donc, nous allons donner. Je peux vous dire que c'est un sacré défi. Mais c'est une caractéristique. Et aujourd'hui, nous sommes l'église la plus prospère du Burundi. Largement. Nous allons nous acheter un beau bâtiment immense. Et nous avons collecté des fonds locaux. Parce que les gens sont bénis. Parce qu'on a suivi ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Le Seigneur nous avait dit une église fondée sur la parole. Et nous sommes terriblement fondés sur la parole. À tel point qu'il y a des gens qui, quand ils vont même à l'étranger, ils disent « Pasteur, je suis vraiment bien ici, mais il y a une chose que je regrette amèrement et profondément, c'est l'église El Shaddai à Bujumbura. » Quand vous entendez ça en tant que pasteur, vous dites « Waouh, ça fait plaisir quand même. » Ça vous remplit pas d'orgueil, mais ça fait plaisir. Parce que vous vous dites que vous avez planté des choses dans les gens. Et il y a des dizaines de gens qui disent ça. Ils disent « Mais ils m'écrivent du Kenya, ils m'écrivent de Madagascar, ils m'écrivent de Belgique, ils m'écrivent de partout, à droite, à gauche. » Ils disent « Où est-ce qu'il y a une église qui ressemble vraiment à la nôtre ? Où on a une parole puissante ?» Et c'est difficile à trouver, c'est vrai. Il y a peu d'églises locales francophones établies. On parlera de l'établissement de l'église. On ne parlera pas de démarrer une église. Beaucoup de gens démarrent des églises, mais très peu de pasteurs arrivent à établir leur église. Il y a une immense différence entre démarrer une église et établir une église. C'est complètement, complètement différent. Et en fait, quand Dieu nous donne une vision, nous ne pouvons pas courir la course d'un autre. Le Seigneur nous avait parlé de sa présence, l'expérimentation puissante de sa présence. Et c'est des choses qu'on a vécues et qu'on vit régulièrement dans notre église. Où l'onction de Dieu tombe, et on laisse l'onction de Dieu tomber. Et il y a des choses qui se passent, puissantes, où des vies sont transformées. Et ça, c'était vraiment les trois pôles que Dieu nous avait donnés. Et si vous ne respectez pas ça, je n'ai pas essayé d'imiter d'autres églises qui avaient d'autres visions. Si vous courez une autre course, vous vous plantez. Si vous cherchez ce qui fonctionne là parce qu'une église a réussi à faire telle ou telle chose, vous vous plantez. Vous essayez, comme David a essayé de revêtir l'armure de Saül à un moment, hein, quand il est venu auprès du roi Saül, que partout il disait « Mais moi, ce Philistin qui défie l'armée de l'Éternel, je vais le combattre. » Au bout d'un moment, on a amené David devant Saül. Et Saül a dit « Quoi, un petit bout de chou comme toi, c'est gentil, mais tu vas te faire écraser comme une mouche, en quelque sorte. » Et alors Saül a eu la bonne idée de donner son armure à David. Et David a mis l'armure, et évidemment c'était beaucoup trop grand, parce que Saül était très grand, et David était encore un jeune homme, et il n'était pas très grand. Et en fait c'est l'image de quelqu'un qui veut marcher dans l'onction d'un autre. N'essayez jamais de marcher dans la vision et dans l'onction d'un autre, ça ne marchera pas. Dans l'imitation, il n'y a pas d'onction. Dans l'émulation, il n'y a pas d'onction. Nous sommes revêtus de notre propre onction. Et dans l'église locale, il faut faire très attention. Il faut diriger l'église locale là où Dieu nous a appelés à faire certaines choses avec certains points focaux très forts qu'on met et sur lesquels on revient régulièrement. Et si on fait ça, c'est une clé pour pouvoir réussir. Si on commence à s'écarter, l'onction commencera à diminuer. Les fruits commenceront à diminuer. Et c'est là où il y a des églises qui s'endorment parce qu'elles ont voulu faire comme d'autres églises. Comme d'autres églises, marcher dans l'armure de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, au niveau de l'église locale et au niveau du gouvernement divin, il y a quelque chose qui est très important. Une loi spirituelle, si vous y dérogez, vous aurez des histoires épouvantables. C'est la loi suivante. Le pasteur est corrigé par le Seigneur. Le pasteur n'est pas corrigé par ses brebis. Je répète. À l'envers. Les brebis ne peuvent pas corriger le pasteur. Amen. Là, on touche un point sensible. Je répète. Les brebis ne peuvent pas corriger le pasteur. Je répète. Les brebis ne peuvent pas corriger le pasteur. C'est le Seigneur qui corrige le pasteur s'il fait des erreurs. Gouvernement divin. Faisons bien attention à cela. Il y a des gens qui se permettent des choses dans les églises locales absolument épouvantables. En France, nous savons que la démocratie et le socialisme a eu cours pendant plein d'années. Et c'est vrai que les gens pensent qu'ils peuvent la ramener toutes les 5 minutes. « Pasteur, je suis pas d'accord avec ça !» La soumission... c'est se mettre dessous, soumettre, mettre dessous, c'est simple. Et dans la soumission, on n'est pas forcément d'accord avec le leader. Mais on obéit au leader parce que Dieu a mis une onction sur le leader. Yo, il n'y a pas beaucoup de amen. J'aborde un petit sujet qui est souvent délicat, dirions-nous. Très délicat. Mais c'est une règle spirituelle dans une église. Si vous voulez casser votre église locale, c'est très simple. Je vais vous donner la méthode. Vous allez raconter tout un tas de baratins sur le dos de votre pasteur ou aux autres gens. Vous le critiquez, vous le contestez, etc., etc. Vous êtes sûr d'une chose, que vous êtes en train de tuer votre église locale. Et il y a plein de chrétiens. Alors ils sont là. Seigneur, envoie le réveil! Au travers de moi seulement, hein, Seigneur. Seigneur, envoie le réveil! Oui, Seigneur, je suis ton instrument, bien sûr. Hein. Seigneur, envoie le réveil! Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent leur église locale. Je vais vous dire autre chose. Ça fait 25 ans que je suis en Christ. J'ai vu bien des mouvements, ce que j'appelle des ministères satellites, c'est-à-dire qui tournent autour des églises locales, qui font l'évangélisation, qui réunissent certains groupes, par exemple des hommes d'affaires, etc., etc., etc. Et vraiment des choses qui sont super. Mais, et je rajoute le mais, j'ai vu aussi une chose. Ces groupes-là, à partir du moment où il y a une soumission à l'autorité pastorale, c'est génial, fantastique, ça se passe très bien. Quand ces groupes-là commencent à dire « Nous, on est les meilleurs. Oui, c'est vrai, on est un pasteur, mais nous, on fait un meilleur boulot. » Et ça, on l'a entendu bien des fois. Je vais vous dire, l'onction commence à partir et ce genre de mouvement s'éteint. Je pourrais donner exemple sur exemple sur exemple sur exemple sur exemple sur exemple sur exemple. Quand Dieu envoie un réveil, c'est toujours pour que les âmes soient redéversées où ? Dans les églises locales. On ne déroge pas à cette loi spirituelle. Pasteur est le gouverneur de l'église. Et ça, les gens comprennent mal, parce qu'ils voient des manifestations du Saint-Esprit, ils voient des gens être sauvés en dehors de l'Église, etc., au travers de ce qu'ils font. Et c'est bien, mais automatiquement, il faut ramener les gens dans la bergerie. Si vous ne faites pas ça, j'ai vu des gens pousser en dehors de l'Église locale. On les amène à Christ, on les amène dans des groupes indépendants, sans une autorité pastorale. Deux ans, trois ans, cinq ans plus tard, ce sont des gens qui sont bousillés. Vous voulez bousiller des brebis? C'est la méthode. Pourquoi? Parce que l'onction pastorale, c'est la seule onction qui va amener réellement une stabilisation et une croissance pour les brebis. Et il y a beaucoup de gens qui refusent ça. Oui, mon pasteur est ceci, oui, mon pasteur est cela. Si tu es dans une église, tu as accepté d'avoir une autorité pastorale au-dessus de toi, que tu te dois de respecter, de défendre et d'aider. Attention à cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Moi, c'est comme quand je célèbre des mariages. Maintenant, je suis très clair. Je dis, la jeune fille va se mettre sous une autorité. C'est vieux jeu, ça. Non, c'est biblique. La Bible n'a pas changé. Oui, une jeune fille qui se marie, elle se met volontairement sous une autorité. La Bible dit bien que le mari est la tête du foyer. Et il y a des femmes qui disent, mais non, nous, dans nos sociétés, c'est plus le Moyen-Âge. Désolé, ça ne marche pas. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Non, c'est sûr que les maris doivent aimer leurs femmes. Nous sommes bien d'accord. Ça doit être fait dans l'atmosphère d'amour. On est tout à fait d'accord. C'est la même chose pour le pastorat. L'église locale, c'est strictement identique. L'église locale, c'est une famille. Mais il y a un papa. Et quand papa il n'est pas content parce qu'il y a un enfant qui fait des bêtises, et bien papa il se fâche et il a raison. Le pasteur a le droit de corriger ses brebis et il doit le faire. Absolument. Ouh, ça fait mal hein, ce soir. Mais non, c'est la Bible. Il faut être clair. Et les gens n'acceptent pas ça. Moi j'ai bien des fois des cas où des gens viennent, par exemple ils ont péché. Quand les gens pêchent, il faut les reprendre. Hein, c'est pas facile pour un pasteur. Une fille vient, un garçon vient. Un frère de l'église, il vient, voilà, pasteur, j'ai mis une fille enceinte. Coup classique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, il y en a qui essaient toutes les méthodes pour qu'on les marie au plus vite. Désolé, le péché, c'est le péché. Alors là aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'église locale. On entend parler beaucoup de bénédiction. Et les gens sont très friands de séminaires. Attrape bénédiction. Ah, ça, s'en est rempli. Je prêche la bénédiction. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je prêche la prospérité. Je prêche que les gens soient bénis d'une manière générale. Ça, vraiment, je le prêche très souvent, très souvent, très souvent. Mais je dis attention. La bénédiction, c'est bien, mais la bénédiction n'empêche pas la sainteté. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Parce que ta bénédiction, si tu ne marches pas dans la sainteté, va se transformer en malédiction. Eh oui, et il y a beaucoup de gens après qui terminent très mal. Et on les a vus guéris, on les a vus prospérer, on les a vus touchés par la puissance de Dieu, être remplis du Saint-Esprit à 3 heures, 4 heures sous la puissance de Dieu et de réelles expériences. Et après, on va dire, mais ça c'était faux. Non, c'était pas faux. C'est que la personne, elle devait changer, elle n'a pas changé. Et les gens n'apprécient pas trop ce genre de message. Il faut avoir des choses très équilibrées. Dans l'église de Dieu, on doit avoir la sainteté. On doit prêcher la bénédiction, mais la sainteté est une exigence de Dieu. Et souvent, les prédicateurs, comme ils voient que c'est plus très populaire de prêcher sur le péché, on va prêcher sur la bénédiction. Oui, d'accord. Ok, mais attention. Et souvent, les gens, quand ils ont un problème de péché, ils viennent voir le pasteur, parce que normalement, quand on a un problème de péché, il vaut mieux voir le pasteur. Il doit être informé de certaines choses, c'est clair. Ouh, je suis vieux jeu, n'est-ce pas hein? Non, non, je ne suis pas vieux jeu, je suis scripturaire. Oui, oui, ah, amen, ah, quand même un amen. Bientôt être sauvé. Préparez les tomates pourries d'ici quelques temps et les œufs. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans l'église de Dieu. Et le papa, lui, il doit corriger. Et il doit restaurer. Et les gens n'aiment pas trop ça. Donc très souvent, quand les gens ont des problèmes de péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le papa, le pasteur. Vous savez, en Afrique, il y a des pasteurs qu'on appelle papa. Je trouve que c'est marrant, c'est bien. Sauf que c'est sympa, c'est une connotation sympa et réelle, en fait. Parce que le pasteur est aussi le papa de la famille, de l'église. Et en fait, les gens, souvent, ils veulent se faire corriger. Ils se veulent pas corriger, souvent ils se rebellent à la correction. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, en tant qu'autorité pastorale, par exemple, si dans votre église, il y a une fille qui est mise enceinte hors mariage, et que vous ne faites rien, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines ou 2 semaines, vous célébrez le mariage vite fait, bien fait. Ben, les autres vont se dire quoi? Ben, finalement, le pasteur, il est gentil, il veut nous garder. Il fait tout pour nous arranger, en quelque sorte. Et le péché devient quelque chose qui devient normal. Je vais vous dire une chose, si vous voulez une église qui prospère, la sainteté est une exigence. Sinon, vous allez exploser, et dans le mauvais sens du terme. Vous aurez les pires trucs qui vont se produire dans votre église locale. Les pires trucs qui vont se produire. Dans un sens, vous allez penser vraiment voir une croissance de votre église, être béni. Et dans un autre, vous allez voir l'onction d'un seul coup qui diminue. Vous allez dire, mais c'est bizarre, pourtant on est là, on loue et on adore Dieu, toujours pareil, etc. etc. Pourquoi? Parce que le papa n'aura soit pas fait son boulot, ou les brebis n'auront pas accepté d'être corrigées. Faire très attention. Moi, des fois, j'ai deux cas comme ça. Pour le même péché, deux réactions différentes. Et c'est là où on voit. Il y a des gens qui acceptent de se faire corriger et d'autres qui n'acceptent pas. J'avais comme ça un garçon, il avait une trentaine d'années, il a mis une fille enceinte. Pourtant, il avait les moyens de se marier à l'époque. Des fois, c'est un problème de pauvreté qui est difficile dans certaines de nos églises, où les gens attendent de se marier parce qu'ils n'ont pas l'argent de la dot, ils n'ont pas l'argent du mariage, etc. Et puis, il y a toute une obligation d'avoir X centaines de personnes au mariage, etc. Ce qui coûte cher à des gens qui gagnent peu. Et surtout quand on sort d'une guerre civile. Et en fait, ce premier, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne t'es pas marié avant? Pourquoi est-ce que elle avait un bon travail, lui aussi? Je lui ai dit, mais pourquoi? Bon, ils sont tombés, ils m'ont dit, voilà, pasteur, on est tombé dans le péché, enfin, je suis tombé dans le péché, etc. Et il a absolument voulu me faire célébrer son mariage. Et j'ai dit, je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça maintenant, parce que sinon, les autres vont penser qu'on peut faire n'importe quoi dans l'église de Dieu. Et il a essayé d'insister et je lui ai dit non. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir le pasteur de la fille pour essayer de faire le même truc. Et ça n'a pas marché non plus. Donc ils se sont mariés en dehors à l'église catho. Ils ont eu un enfant et cet enfant est mort. Et c'est une catastrophe, une tragédie. Et quelques temps après, ils sont blessés. Et alors ils remettent en cause l'église, ils remettent en cause certaines choses, etc. Vous voyez, ils se seraient soumis. J'ai eu un autre couple récemment, même problème. Et j'ai dit au garçon, j'ai dit non, non, non. J'ai dit, c'est clair, moi je célébrerai le mariage, on attendra, la fille est enceinte, le bébé va naître, et après on régularisera votre mariage. Régularisera votre mariage. Vous savez, hein, quand une mariée a déjà été enceinte, elle sent cramée. Hein. Il faut être clair. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il faut être clair. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Et devant le péché, le pasteur doit corriger. Si vous voulez vraiment avoir une église qui explose, qui boume bien, Et vous savez, il y a certaines personnes qui se font des illusions sur certaines églises. C'est pas parce qu'il y a du monde dans une église qu'il y a de la profondeur. Hein. Attention, je répète, c'est pas parce qu'il y a du monde dans une église. La quantité est une chose, mais la qualité en est une autre. Et si on a une grande quantité avec une mauvaise qualité, tôt ou tard on va le payer. Si on a une grande quantité avec une grande qualité, là on explose. De partout. Et ça c'est extraordinaire. Mais en arriver là, ça demande énormément de travail. Alors le pasteur, comme je vous le disais, les brebis ne corrigent pas le berger. Par contre, le berger a une obligation de corriger ses brebis. Ce qui, je vous dis, est assez rarement accepté. Parce qu'on dit quand même, oui, tu as une autorité pastorale au-dessus de toi. Oui, amen, tu as une autorité. Dis à ton voisin, tu as une autorité pastorale à côté. Au-dessus de toi. Dis-lui, tu as une autorité pastorale au-dessus de toi. Amen. Oui, absolument. Et tu as intérêt à la respecter. Dis-lui aussi, et regarde-le bien dans le blanc des yeux. Oui, absolument. Et les gens ont du mal à accepter ça. Souvent, ils refusent ça. Et ça leur pose bien des tribulations. Je vous assure, l'esprit rebelle. Vous vous rappelez de l'histoire de Myriam et d'Aaron, hein? Dans les Nombres avec Moïse. Moïse avait un problème. Moïse, il avait épousé une femme à l'époque où il s'était planté, où il avait voulu jouer le grand Rambo par ses propres forces, sans onction, à vouloir délivrer le peuple d'Israël. Il s'était pris une telle claque qu'il a fui dans le désert parce qu'il avait peur que Pharaon lui coupe la tête. Il avait fui. Et pendant 40 ans, il a été un grand berger de petites brebis. Mais celles-ci, elles étaient réelles. S'il pouvait parler le langage des brebis, d'ailleurs. Et quand Dieu le rappelle, franchement, Moïse, il n'est pas du tout motivé. Quand vous lisez le début de l'Exode, franchement, Dieu a dû se fâcher. Il a dit, je t'ai dit de, va. Moïse dit, non, on voit, tu sais, il y a 40 ans, c'est vieux. Moi, j'ai 80 ans maintenant. Allez, on me laisse tranquille, je suis prêt de mourir, etc. Il se voyait, hein, d'ailleurs. Bon. Et Dieu a vraiment ravivé quelque chose d'extraordinaire. L'expérience particulière quand vous êtes mort à votre propre volonté. Si vous avez une grande vision, si le Seigneur vous a montré de grandes choses et que vous n'y êtes pas, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Un peu de désert, ça va vous faire du bien. Amen, alléluia. Il va falloir être fidèle dans le désert. Ah, c'est dur. Bon. Et en fait, le Seigneur donc le ramène, donc l'amène, donc il devient le grand leader qu'il doit être. Il a un million et demi de personnes derrière lui. J'aurais vraiment pas voulu être à sa place, hein, parce que 1,5 million de rebelles, ça fait mal. Hein. La vache. Oh. Déjà, avec nos chrétiens, des fois, c'est pas facile, mais alors 1,5 million d'inconvertis qui sont là, sans rien, et qui sont dans le désert, sans maison, sans latrine, sans rien du tout, ça n'a pas dû être simple. Mais bon, gloire à Dieu, Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Oh, gloire à Dieu. Dieu avait choisi son instrument. Bon, mais il se retrouve dans le désert, et à un moment... Eh bien, quand il part, si vous étudiez bien, quand Moïse part de Madian pour retourner en Égypte, sa femme est avec lui. Et quand vous arrivez dans le désert, Jéthro essaye de réconcilier Moïse avec sa femme, et ça marche pas. Et Jéthro repart avec Madame Moïse, Séphora. Et en fait, Moïse va continuer comme ça. Et quelque temps après, on apprend que Monsieur Moïse, il a une femme éthiopienne. Vous n'avez jamais lu cette histoire ? Ah, si. Donc il était dans le péché, c'est clair. C'est très clair, oui ou non? Tout à fait clair. Bon. Et alors, comme Moïse était puissamment utilisé par Dieu, plus vous êtes utilisé par Dieu, plus vous aurez des tribulations avec vos proches. Je tiens à vous l'annoncer à l'avance. Amen. Je vois un frère qui dit amen. Ça veut dire qu'il a déjà goûté à la casserole. C'est bon, frère. C'est à force de mijoter que nous devenons un peu plus tendres. Amen. Et en fait... Moïse s'est retrouvé dans un moment difficile parce qu'il avait son entourage qui le contestait directement. Myriam, sa sœur, Aaron, son frère, commence à dire « Est-ce que c'est que par Moïse que Dieu parle ?» Il commence à contester directement son autorité spirituelle. Et si vous lisez la suite de l'histoire, Dieu va défendre qui ? Son serviteur. Un serviteur peut faire des erreurs, personne n'est parfait, mais Dieu le défendra toujours. Amen. Par contre, quand quelqu'un essaye d'utiliser les erreurs d'un serviteur pour faire un gros croche-pied et pour essayer de prendre sa place, je peux vous garantir, ça vole en éclats. Dieu ne fera pas de cadeau. Dieu défend toujours ce qu'il a moins. Très fortement, je l'ai vu dans mon propre ministère, je l'ai vu. De façon puissante. Très forte, très puissante. Dieu défendra toujours celui qui est loin. Maintenant, si celui qui est loin continue à faire des gaffes sérieuses, au bout d'un moment, il perdra de la crédibilité envers ses brebis. Et là, les brebis commenceront à chercher des verts pâturages ailleurs, parce que le pâturage commence à sentir le roussi dans le coin. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens gèrent le vert pâturage, c'est normal, parce qu'ils ont faim et soif du Seigneur. Et ils veulent que leur église ait bonne réputation. Ils veulent que leur pasteur soit quelqu'un qui ait une bonne réputation. Et la réputation, ça se gagne. Et ce n'est pas en deux jours qu'on a bonne réputation. La relation, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la relation entre brebis et pasteur. Énormément de choses. Ça se construit. Le pasteur qui veut simplement prêcher le dimanche et foutre le camp par la petite porte et jamais voir les gens, jamais les recevoir et pas de conseils. Jamais de rendez-vous, ou très peu de rendez-vous, parce que c'est devenu un grand monsieur très important, et bien celui-ci fait une grave erreur. Parce qu'il ne gagne pas beaucoup la confiance de ses brebis. Et ça, ça met du temps. Je vois plein d'églises qui ont des problèmes financiers. Mais moi, je ne connais pas un Dieu qui a un problème financier. Mon Dieu est le créateur de toutes choses. Si une église a des problèmes financiers, c'est que souvent, ça dit plusieurs choses. Moi, je suis dans le 5e pays le plus pauvre du monde. Burundi, c'est numéro 5 en partant d'en bas. Vous, vous avez de la chance. Vous êtes numéro 5 en partant du haut. Bon, on est un peu loin, mais on est numéro 5 quand même, tous les deux. D'accord? Donc, évidemment, nous avons des challenges financiers qui sont assez conséquents. Et on en a eu pendant bien des années. J'ai eu un bureau rempli de poussière pendant 4 ans. 5 ans, disons, on n'avait rien. Aujourd'hui, vraiment... Ça va, ça se passe très bien. Nous sommes bénis, nous sommes regardés d'ailleurs par d'autres en disant ça rentre bien, la banque, nous sommes en train d'acheter un grand bâtiment comme je vous le disais, on paye en 3 fois, et la banque, on a changé de banque il y a un peu plus de 6 mois, presque une année maintenant, et quand on a changé de banque parce que l'autre banque a refusé de nous faire un prêt, ils nous croyaient pas, ils pensaient qu'on avait monté qu'on avait fait un faux montage en quelque sorte. Ils sont venus voir ce qui se passait chez nous réellement pour savoir si réellement les chiffres qu'on leur avait annoncés, qui ne sont pas exorbitants pour vous peut-être, mais qui sont déjà pas mal pour nous, ils se demandaient si réellement on disait la vérité. Donc ils ont été contrôlés, ils ont même été dans l'église, les employés de la banque étaient dans l'église pour savoir si vraiment il y avait ce monde-là, si vraiment les finances étaient réelles. Ils se demandaient, ils se disaient, mais vous recevez votre argent de l'extérieur toutes les semaines? Non, j'ai dit, non, on ne sent pas l'argent d'extérieur. On met notre argent, nos dîmes et nos offrandes toutes les semaines dans notre compte. Ils pensaient qu'on recevait, en fait, ce qu'on met, la dîme et des offrandes, ils pensaient qu'on le recevait de l'extérieur. Et en fait, normalement, une église ne doit pas avoir de problème financier. Au début, elle peut avoir quelques difficultés financières parce qu'on démarre. Mais si au bout de 10 ans, vous êtes toujours avec 0 et moins 0, et que vous n'avez pas d'argent de côté, il y a un problème. On va voir au bout de 10 ans comment on doit faire le bilan d'une église locale. Très important. Et c'est là où on doit voir les points forts et les points faibles. Parfois, il y a des églises qui font des bilans au bout de 10 ans. Ce ne sont pas des bilans. Ce sont des dépôts. De bilans. Extrêmement grave. Non. Franchement, nous avons tout à notre disposition. Nous avons les clés, frères et sœurs, pour réussir. Financièrement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une église et les gens sont des donneurs aujourd'hui. Mais il a fallu construire quelque chose, une relation dans ce domaine-là. Et ça n'a pas été facile. Moi, je suis blanc. Je m'adresse à une église de gens de couleur. Je suis missionnaire. Et les gens pensaient qu'au début, missionnaire, vous savez, les missionnaires, il y a certains qui sautent des pays en pays. Hein, 3 ans là, 2 ans là, 1 an là. Ils disent, bon, d'accord, comment est-ce qu'on peut investir dans une église? Ou peut-être que demain, ils seront partis. Et ça fait susciter des questions, parfois. Ça fait susciter des sacrées questions. Mais je dois dire qu'à chaque fois qu'on fait un appel de fonds pour quelque chose... On n'a aucun problème. On a besoin de s'acheter un ordinateur, on n'a aucun problème, on va s'acheter un ordinateur. On a besoin d'acheter une voiture, dans l'année, on budgétise et puis on s'achète 2 voitures, au lieu d'une. On n'a pas de problème. Parce que ça doit couler. Si vous êtes béni, ça doit couler. Maintenant, si vous n'êtes pas béni, ça ne va pas couler. Ça va suer. Vous allez avoir des difficultés. Alors, qu'on trime pendant un temps, c'est normal. Mais qu'on trime pendant longtemps, ce n'est pas normal. C'est une condition qui est anormale. Beaucoup d'églises vivent dans un style de vie anormal. Et ça, c'est pas bon. Rappelez-vous, au début, on a dit que l'Église était surnaturelle. Surnaturelle. Je ne connais pas une Église locale qui pratique les principes de la parole de Dieu et qui est pauvre. J'en connais pas une. Parce que si Dieu a institué la dîme, c'est qu'il avait ses raisons. Et c'est un très bon principe. Un excellent principe qui permet, où que ce soit dans le monde, de pouvoir faire qu'une église locale ait tous les moyens d'annoncer le message de Christ. Et de prospérer, et de s'installer, et de s'établir, sans aucun problème, absolument. Mais maintenant, il va falloir utiliser les lois spirituelles qui permettent cela. Donc c'est très important que on comprenne qu'il y a ces principes. Il y a ces principes qui sont là, il y a ces lois spirituelles qui sont là, et si nous apprenons à les appliquer, les pratiquer, obligatoirement, au bout d'un moment, la loi sera appliquée, et la loi va produire quelque chose, loi spirituelle, obligatoirement. Mais là encore, il y a quelque chose que beaucoup d'églises ne comprennent pas. Vous savez, on est dans le monde de la facilité, il faut que tout soit facile. Il faut que mon essence, je l'ai en quelques secondes. Il faut que, avec ma carte bancaire, je puisse retirer du cash en quelques secondes. Il faut que tout est fast-food, en quelque sorte. Vous avez remarqué, on devient la société fast-food. C'est pratique dans un sens. Mais là où il y a un petit problème, c'est que les gens s'habituent dans des mentalités où il leur faut tout, tout de suite. Et l'Église, c'est pas tout et tout de suite. Un bébé ne grandit pas en deux jours. Nous ne sommes pas devenus adultes en deux jours. Ça a pris du temps. Ça a pris des efforts. Ça a pris de l'éducation, etc., etc. Et le problème, c'est que les gens ne réalisent pas une chose. Pour avoir une bonne église locale, il y a un prix immense à payer. Je répète, parce qu'apparemment vous dormez. Pour avoir une bonne église locale, il y a un prix énorme, gigantesque à payer. Le leader va payer cher. Très cher. Parce que, pour être un disciple de Christ, Jésus nous a dit d'abandonner notre vie. Ça n'a pas changé cette parole. Souvent, vous savez, on lit des paroles dans l'écriture du haut. Ouais, Jésus a dit ça. Oui. Moi, je peux vous dire, il y a quelque temps, je suis revenu aux évangiles. Et vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur, honnêtement. J'ai dit, Seigneur, vraiment, j'ai considéré vraiment les évangiles à la légère. Jésus dit des choses dans les évangiles, mais simples. Alors, comme c'est très simple et qu'on a l'habitude d'être un grand docteur de la parole à décortiquer les mots grecs, on oublie la simplicité. Alors, j'ai redécouvert des choses comme un bon arbre porte de bons fruits. Ça vole pas haut, hein. Mais c'est puissant. Très puissant. Un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et un mauvais arbre... Non, un bon arbre. Ah. Regardez bien si vous suiviez. C'est comme ça qu'on se raccroche aux branches. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ah. Vraie et fausse conversion. Vraie et fausse conversion. Je répète, vraie et fausse conversion. Si quelqu'un est planté vraiment dans un ministère, il doit porter de bons fruits. Obligatoirement. Des fois, ça met du temps, parce que c'est pas le lendemain qu'on porte les fruits. C'est comme quelqu'un qui dit, tu veux recevoir Jésus ? Prions la prière du pécheur. Oui, Seigneur, je viens à toi, je suis un pécheur. Oui, d'accord. Bon, d'accord, ok. Ça y est, c'est converti, celui-ci. On a eu trois conversions aujourd'hui à l'église. Radicale. Oui, trois semaines plus tard, vous ne les voyez plus. Si c'est pas le dimanche d'après. Vous voyez, on est très émotionnel. Moi, j'observe beaucoup les gens. Bon, votre pasteur, paraît-il, il l'observe aussi beaucoup. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Méfiez-vous, hein, c'est dangereux, ça. Et en fait, je regarde toujours quand quelqu'un commence à venir à l'église, dit qu'il s'est donné au Seigneur, etc. Je regarde son discours. Je me fais ma propre opinion au départ. Et j'attends. Parce qu'obligatoirement, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a obligatoirement des fruits qui vont être là. Il y a quelque chose qui est là. Parce que la vie de Christ vient dans cette personne. Et obligatoirement, il y a des fruits. Parce que quand la vie de Christ est infusée dans l'esprit d'une personne, qu'elle naît de nouveau, que sa vie est radicalement transformée, obligatoirement, il y a de bons fruits. C'est la même chose pour un ministère. Quelqu'un qui vous dit, j'ai un appel pour ceci, je dois faire ceci, là. On regarde les fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est pas compliqué. Et c'est vraiment très utile, cette simple parole. Et c'est très puissant. Jésus a dit beaucoup de choses très simples, mais je me suis aperçu que c'était très puissant. Très, très puissant. Il y a vraiment des choses que le Seigneur a dit dans sa parole qui sont vraiment, dans les évangiles, très, très, très puissantes. Des puissantes lois spirituelles. Jésus a donné beaucoup de lois sur le royaume de Dieu, qui souvent nous passent à côté parce qu'on a lu ça des centaines de fois et qu'on ne réalise pas que ce sont des lois par lesquelles le royaume de Dieu est régi. Il est complètement régi au travers de ces lois du royaume de Dieu. Alors, il y a des moments très difficiles dans l'histoire d'une église. Aucune église n'est passée par le lit de rose. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est dans les contes de fées. C'est dans certains livres où on vous montre que l'aspect positif du ministère. Mais derrière tout ça, il y a toujours obligatoirement des douleurs d'enfantement. Il y a toujours le prix à payer qui est difficile à payer. Il y a toujours des conflits. Il y a toujours des gens qui claqueront la porte. Vous savez, en général, quand on démarre une église locale avec un groupe de personnes, au bout de quelques années, il n'y a quasiment plus personne du démarrage. En général, c'est à peu près ça. En gros, c'est à peu près ça. Non, mais c'est clair, faut pas rêver. Parce que les gens qui vous diront qu'ils sont avec vous, en fait, ils sont pas avec vous. D'ailleurs, moi, je ne dis plus jamais que des gens travaillent avec moi. Je refuse de dire ça. Je suis un dictateur. Non, pardon, je suis un gouverneur. Et je dis toujours que les gens travaillent sous mon leadership maintenant. Je ne dis plus que les gens travaillent avec moi. Ah, capte quelque chose ce soir. Ne dis jamais ça si tu es dans le ministère. Et c'est pas de la dictature du tout, c'est une réalité spirituelle. Quand les gens vous implantez dans leur cœur en leur disant on travaille ensemble, on travaille ensemble, on travaille ensemble, le jour où il y a des pressions spirituelles, le jus commence à être mauvais. Oui, absolument. Les ambitions personnelles commencent à se lever. Les agendas cachés, comme on dit souvent, commencent à s'ouvrir devant tout le monde. Et d'un seul coup, on voit les motivations réelles de la personne. Rappelez-vous d'une chose, un fruit produit du jus seulement s'il est pressé. Amen. Hein? Vous n'avez pas un fruit comme ça et vous allez dire, au nom de Jésus, produit du fruit. Du jus, pardon. Du jus, au nom de Jésus. Ça arrive en plus. Non, non. Un fruit produit du jus seulement s'il est sous pression. C'est la même chose pour un leader, c'est la même chose pour une église locale. C'est absolument la même chose pour une église locale. C'est quand il y a des pressions qu'on voit réellement ceux qui sont dans la vision. C'est quand il y a des pressions qu'on voit réellement ceux qui sont avec le pasteur. Quand c'est la tempête, le marin dit, capitaine, à la mort et à la vie, je suis avec toi. Jusqu'au bout. C'est très important, ça. Ça, c'est les gens qui sont loyaux. La loyauté, trait de caractère. Vous ne pourrez jamais construire une église locale si vous n'avez pas les trois piliers suivants que je vais vous dire brièvement. Le premier pilier, dans votre vie spirituelle et dans votre ministère, si vous êtes un leader, même au boulot, où que ce soit, je vais vous dire une chose. Si vous voulez construire réellement sur des bonnes fondations, il y a trois piliers indispensables. La parole de Dieu, numéro un. Ça, c'est clair. La parole de Dieu, on l'apprend. Évidemment, si on met son nez dans une poubelle spirituelle, comme beaucoup de personnes malheureusement, j'en passerai des vertes et des pas mûres comme les ministères de délivrance, une pourriture qui a pourri le corps de Christ, des gens qui prêchent que les malédictions, les chrétiens ont des malédictions ancestrales, faux et archi-faux, nous sommes bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, nous avons été transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, de son fils bien-aimé. Il n'y a aucune malédiction ancestrale sur nous. Nous n'avons plus de passé spirituel. Ça a fait un mal dans le corps de Christ. Et évidemment, les histoires de fausses prophéties. Épouvantables. Donne-moi une parole, machine à 100 balles. La première chose, c'est d'être enseigné dans la parole puissante de Dieu. Je vous montrerai que si vous avez une église locale, il vous faut un centre de formation dans votre église locale. Ça vous aidera beaucoup. À temps partiel, jamais à temps plein. Nous n'avons pas les ressources en France, enfin, en général dans les pays francophones, pour faire des centres de formation à temps plein. Donc le mieux, c'est d'avoir quelque chose à temps partiel. La parole de Dieu, c'est le premier pilier indispensable sur lequel vous devez fonder votre vie spirituelle. Et il vous faut une bonne parole de Dieu, un bon message sur la foi, un bon message sur ce que vous êtes en Christ, ce qu'il a vraiment fait pour vous, spirituellement parlant, réellement. Un bon message de fondation. Moi, je parlais avec des frères qui me disaient, la nouvelle naissance, non, on disait se convertir. Vous savez, on se convertit à l'islam aussi, hein. On se convertit au bouddhisme. On ne se convertit pas au christianisme. On naît de nouveau et c'est un miracle. Il faut insister là-dessus. Parce que je vous dis une chose. Il y a beaucoup de gens qui s'illusionnent eux-mêmes et qui traînent des églises. Qui ne sont pas nés de nouveau. Vous seriez surpris. Très surpris. Donc une bonne parole de Dieu, une parole qui va loin. Je pourrais vous faire un détail un peu de ce que devrait être enseigné, ce qu'on devrait avoir comme enseignement dans nos églises. Mais ça, c'est absolument indispensable. C'est un pilier indispensable, la parole de Dieu. Parce que quand l'onction, vous savez, dans une église, peut être très forte ou peut être moins forte. Nous, par exemple, dans notre église, des fois, on a des temps d'onction. Il y a des réunions où on prie pour les gens et ça dégomme, sérieusement. Les gens sont touchés par la puissance de Dieu. Mais il y a des moments où il y a des périodes où pendant, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois, on enseigne. Et l'onction est beaucoup moins forte. On le sent. Parce que c'est des périodes où les gens ont besoin d'être construits dans la parole. Moi, quand le Saint-Esprit descend, je ne bouge pas, je fais simplement qu'obéir. Bon, mais quand on a simplement un temps de louange et d'adoration, entre guillemets classique, un bon temps de louange et d'adoration, mais que l'onction n'est pas tangible et qu'elle ne se répand pas sur les gens, eh bien, j'enseigne la parole de Dieu. Ma femme, c'est pareil. On enseigne, on obéit au Saint-Esprit. Donc il y a des temps forts. Par exemple, en 2006, pendant 4 mois, on a été visité dans notre église comme on n'avait jamais été visité auparavant. La présence de Dieu était là tellement forte. Il y avait des moments où on ne pouvait plus prêcher. On a été visité. Puis après, il y a eu un temps où c'était la parole. Et puis là, il y a des moments où on recommence à être visité. Il y a des semaines où ça descend très sérieusement. La présence de Dieu vient puissamment. Alors, deuxième pilier, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Et je parle de sensibilité, je ne parle pas d'émotionnalité dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient des manifestations, ils ont les yeux collés sur les manifestations. C'est une grave erreur. Ne cherchez jamais des manifestations. Cherchez celui qui est la source de toute chose. Quand quelqu'un est rempli, obligatoirement il y aura des manifestations. Il y a des gens qui vivent sous la puissance de Dieu, qui sont comme électrifiés, ok. Mais ce n'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir le fruit que la personne va porter, si sa vie va changer, si elle va relever le défi de dire « Je suis touché par la puissance de Dieu, mais je dois changer. J'ai des choses à mettre en règle. » Un frère, un jour, qui était vraiment déjà un très très bon prédicateur, qui avait un grand ministère international, un jour il a fait une expérience, il a été ravi en esprit. Il est monté au troisième ciel. Et il a vu le Seigneur. Et il disait ça, il disait « Mais moi je pensais que dans ma vie, dans mon ministère, c'était... » J'étais déjà au troisième ciel. Et c'est vrai que, franchement, à l'extérieur, on aurait cru. Franchement, il portait des fruits incroyables, l'évangélisation, puissance de Dieu, enfin, beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais des choses à mettre en règle avec Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit doit toujours nous amener à nous voir tels que nous sommes. Et nous remettre en question. Et changer. C'est pour ça que, malheureusement, le mouvement qu'il y a eu dans les années 90... Moi, j'ai assisté à des réunions avec Rodney Howard Brown, qui exerçait le ministère. Mais la puissance de Dieu déferlait, pendant des heures et des heures. On était baignés, trempés, vraiment dans la présence de Dieu. Et malheureusement, ce mouvement que Dieu a envoyé dans différentes églises, à Toronto, etc., etc., a souvent dégénéré, parce que les gens avaient un manque de fondation dans la parole, et sont devenus après, « Gili, gili, Seigneur, gili, gili. » Je veux. Mais ça amène pas l'onction, ça amène la chair. Et quand les gens forcent dans ces choses-là, ça amène pas seulement la chair, ça amène les mauvais esprits. Et après, on se demande pourquoi les gens sont oppressés et que quelques années plus tard, c'est tout juste s'ils sont encore au Seigneur. Désolé. Moi, je veux voir le fruit. Le fruit. Donc, dans une église, le deuxième pilier, bien sûr, c'est cet aspect de l'onction du Saint-Esprit. Équilibré. Les prophéties doivent être jugées. C'est ce que la Bible dit. Examinez à la parole, selon la parole de Dieu. Quand quelqu'un prophétise tous les dimanches matin à 10h47, ça pose un problème. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Et le pasteur, il n'a pas intérêt à laisser faire ces choses. Il faut faire attention. Des gens qui se lèveront. Si vous avez une église qui bouge, l'ennemi enverra des gens. Moi, je me souviens un jour, il y a comme ça quelqu'un qui est venu dans notre église, c'était une dame. Et elle se levait et elle commençait à soi-disant parler en langue. Oh là, ba, 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 oh là 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 là. Et ça vibrait. Alors elle se mettait debout, alors tout le monde était assis, etc. etc. Typique, ça se ressent à 10 km, hein. C'est clair, ça sent mauvais. Alors bon, on l'a laissé quelques fois, puis au bout d'un moment, elle commençait à vibrer sous soi-disant l'onction. Et elle commençait à dire des paroles. Puis un jour, elle commençait à dire. Elle voyait qu'on ne lui laissait pas le créneau. Parce qu'en général, c'est des gens qui essayent de manipuler et d'usurper l'autorité pastorale. Et alors, cette femme, comme la parole de Dieu est très claire dans l'Église, c'était 2-3 ans après qu'on ait démarré l'Église, il commençait à, je dirais, elle essayait de, comme ça, au travers de la prophétie, d'avoir des responsabilités. Et elle voyait que ça ne marchait pas et que les gens commençaient à voir que ça n'allait pas. Puis un jour, comme elle voyait que ça ne marchait pas, elle a tenté le tout pour le tout. Elle s'est levée, puis elle a commencé à dire « Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple, Pharaon. Pharaon, oh, laisse aller mon peuple, Pharaon. » Puis je l'ai regardé et j'ai pensé « Pharaon, c'est moi ?» Et puis ce jour-là, on l'a viré. Faut être clair. Il y a des gens bizarres, vous savez. Vous aurez des trucs bizarres qui s'introduiront. Si vous avez un jour un puissant mouvement d'esprit, faites attention, veillez au grain. Le capitaine du bateau doit faire très attention. Sinon, il y aura des moussaillons qui vont tomber à la mer. Je vous le garantis. Faisons bien attention. Nous devons veiller. Troisième pilier qui est souvent très peu enseigné, le caractère. Ah, la sanctification. Le renoncement à la chair. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, on en entend de moins en moins parler dans beaucoup d'églises. On veut le Saint-Esprit. Ouh. Oui, mais le Saint-Esprit ne se manifestera plus où il y aura des choses très bizarroïdes qui se produiront si le caractère n'est pas forgé. Alors la parole de Dieu, on la reçoit comment? Au travers de l'enseignement. Au travers, directement, de livres, de DVD, etc. etc. Ça, c'est facile. L'onction, elle se capte. Quand il y a des moments où l'onction est déversée quelque part, que vous avez un ministère qui est puissamment loin, eh bien, vous êtes là et vous commencez à progresser dans l'onction. Vous êtes rempli, Dieu vous touche, etc., etc. Excellent. Mais le caractère, la plus grosse difficulté, c'est que ça se forge. Et ça fait mal. Et on n'aime pas ça. Parce qu'on aime bien le fast-food. Seigneur, fais tout ça dans ma vie, c'est pas compliqué. Mais je vais vous dire une chose. Résister à la tentation forgera votre caractère. Je répète. Résister à la tentation forgera votre caractère. Je répète. Parce que résister à la tentation fera souffrir votre chair. Amen. Céder à la tentation ne forgera pas votre caractère. Ça vous amènera au contraire à glisser dans des choses qui sont extrêmement mauvaises. Quand Dieu vous demande quelque chose, il y a des gens qui disent « Ah, ça fait 10 ans que je fais la même chose. » Oui, continue. Dieu rémunère la fidélité. Quand il y a des moments où ça secoue dans l'église, si tu es en train d'entourer ton pasteur, eh bien je vais te dire une chose, ta loyauté, tôt ou tard, sera rémunérée. Mais ce n'est pas facile quand tout le monde est en train de tirer sur le pasteur parce qu'il a fait une erreur et que toi, tu es en train de dire « Ok, c'est vrai, il est humain, c'est vrai. Mais c'est mon pasteur et je l'honore. » C'est difficile à dire. Mais ça forge, ça forge. L'obéissance forge, la soumission forge. Je vais vous en parler tout à l'heure. Se soumettre à l'autorité pastorale, ça forge. Ça fait mal. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire ce que le pasteur nous demande de faire. Le pasteur te demande de faire telle ou telle chose dans l'église. Non, tu sais, pasteur, je suis très occupé en ce moment. Soumets-toi, fais. C'est là où tu seras forgé. On est forgé dans les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et qu'on fait, et qu'on dit, Seigneur, ok, j'accepte. Parce que je le fais pour toi, Seigneur. Je le fais pour mon église et je le fais parce que je respecte mon autorité pastorale. Vous ne savez pas qu'en respectant une autorité pastorale, vous respectez le Seigneur ? Absolument. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est une vérité. Quand tu respectes l'autorité sous laquelle tu es, tu respectes ton Seigneur. Parce que tu respectes quelqu'un qui est oint par le Seigneur. Et les gens n'aiment pas ça, parce que ça leur coûte quelque chose. Le caractère forgé, ça coûte. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Être intègre dans les moments difficiles. Combien il y a de pasteurs, je le dirais honteusement, détournent des fonds d'église. Il y en a beaucoup dans le monde. Dans le monde! Des secrétaires typiques. Il y en a. Ministère américain, un jour, j'entendais un frère qui a un puissant ministère international et tout. Il est obligé de virer une de ses secrétaires. Une américaine! Elle ouvrait les enveloppes et il y avait des offrandes. Et il y avait une partie des offrandes qui d'un seul coup glissait. C'est honteux, ça peut nous choquer. Mais vous ne faites pas d'illusion, il y a d'autres choses. Où dans les églises, il y a des trucs comme ça qui se passent. Moi, un jour, j'étais obligé de virer mon responsable du protocole, c'est-à-dire celui qui fait l'équipe d'accueil, pour traduire. J'étais obligé de le virer. Pourquoi ? Parce qu'il essayait de financer son mariage en piquant dans la caisse. Ah oui, ça se trouve, des gens comme ça. Ça nous fait sourire. Mais parmi les Français, il y a d'autres problèmes. C'est peut-être pas ça, c'est vrai qu'en général, pas trop ce genre de truc, mais il y a une certaine insoumission. Il y a la rébellion. Moi, j'ai vu des églises cassées à cause de la rébellion. Parce que les gens, sur le pasteur, constamment. Si t'es pas satisfait d'une église locale et de ton pasteur, tu tires ta révérence, mais gentiment, par la petite porte, sans nier tout casser. Parce que quand on fait ça, on fait des erreurs. Et ce qu'on sème, on le retrouve. Et tu ne le retrouves pas au bout de 10 ans, 15 ans. Moi, j'ai retrouvé des choses que j'avais semées qui étaient mal dans ma vie, des années auparavant. Et 10 ans, 15 ans plus tard, je les ai récoltées. Ça a fait mal. Parce que en général, quand on sème une plante, on n'en récolte pas une. Vous avez remarqué? Mais ça, on n'a pas compris ce principe. On n'a pas compris ce principe. Et c'est une puissante vérité biblique, frères et sœurs. Dans le bon côté, mais aussi dans le mauvais côté. Il faut qu'on sache une chose. Dieu nous pardonne, mais il y a des conséquences au péché qu'on peut faire dans l'Église. Je répète, Dieu nous pardonne, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Mais il y a toujours des conséquences pour le péché qu'on peut faire dans l'Église, ou pour le péché qu'on peut faire d'une manière générale. Ça, les gens n'aiment pas entendre ça. Ils disent, non, Dieu est un Dieu de pardon. Mais tu as des conséquences. Tu as des conséquences. Et on ne s'imagine pas. Moi, maintenant, je suis prudent. Oh là là. Galate. Oh. C'est Galate 6. Galate chapitre 6. Je vous assure, je suis devenu ultra prudent. Oh là là là, il est 11h moins de 15. Excusez-moi, je suis trop bavard. Il faut m'arrêter avant parce que sinon, ça dure des heures et des heures. Galate chapitre 6. Verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais on ne s'imagine pas. Notre vie est une semence dans l'église locale et en général. Il y a vraiment des sermons à faire. Je fais des sermons des fois là-dessus. Ce que tu dis, tes paroles sont une semence. Tes finances sont une semence. Tes actions sont une semence. Mais on ne le réalise pas. Et alors au début, bon, on est là, on se dit, on fait ceci, alors on fonce comme des bulldozers, pensant qu'on a toujours raison, on ne réalise pas les conséquences qu'un jour on va récolter. Et je vous garantis, quand quelqu'un dégraine des rébellions dans son cœur et fait vraiment pêche contre son église ou contre un pasteur ou dans différents domaines de sa vie, tôt ou tard il va le récolter. Tôt ou tard. Et on n'aime pas récolter ce genre de truc. Heureusement, entre-temps, vous voyez, le problème, c'est que si on a bien maturé après dans l'église locale, on récolte nos mauvaises actions, mais au moins, on est capable de les manager. Parce qu'on se dit, c'est vrai, je récolte ça, mais c'est vraiment ce que j'ai fait et c'est normal. Et on en subit les conséquences. Par contre, quand une personne n'a pas grandi et qu'elle est toujours restée dans ce genre d'esprit rebelle, mais elle est quasiment... Moi, je connais des chrétiens. Je me souviens d'un frère que j'aimais beaucoup, qui avait vraiment un avenir brillant, vraiment un brillant prédicateur. Mais aujourd'hui, c'est tout juste encore s'il est chrétien. Ça fait mal. Des gens, vous voyez des fois des gens qui ont un avenir brillant. Vous dites vraiment celui-là. Vous savez, il y a des gens sur qui on ne mise rien. On dit, bon, celui-là, vraiment. Même si Dieu fait un miracle, c'est pas si pour. Et puis d'un seul coup, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, vous le retrouvez. Puis il y en a d'autres, vous dites, celui-ci. gars, il prêche, les gens sont... Des gens comme ça, brillants. Brillants, mais vraiment des gens brillants. Ils sont plus rien quelques années plus tard. Ce qu'on sème, on le récolte. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie est infusée. Nous sommes constamment en train de semer. Chaque parole que tu dis, c'est une semence. Chaque action que tu fais, c'est une semence. Chaque finance que tu donnes, c'est une semence. Il y a plein de choses. Je vous assure, c'est une loi. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est simple. On pourrait beaucoup parler de cette loi spirituelle de semer et récolter. Parce que ça s'applique. On l'a souvent appliqué qu'aux finances, à l'argent. Ça a mille et une applications dans nos vies. Et mille et une implications dans nos vies. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que quand on sème quelque chose, on ne le récolte pas le lendemain. Donc on se dit, bon, c'est passé, ça va, c'est bon, on n'en parle plus. Oui, sauf que des années plus tard, tu le retrouves. Amen. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à vous dire, si ça vous intéresse. Chose très intéressante sur les phases de l'église locale. Amen. On va prier quelques moments et je vais laisser la parole au pasteur.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.